Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode exceptionnel à la croisée du sport, de l'histoire, de la culture, de la géopolitique et tant d'autres. Aujourd'hui, on vous raconte les Jeux Olympiques. 15 siècles après la disparition des Jeux Olympiques antiques, cette compétition renaît sous l'impulsion du baron Pierre de Coubertin à la fin du 19e siècle. Et au fil du 20e siècle, les JO d'été sont devenus l'événement sportif le plus regardé de la planète. Et comme vous allez le voir, raconter l'histoire des JO modernes, c'est aussi raconter l'histoire du 20e et du 21e siècle, puisqu'ils sont traversés par les luttes qui ont marqué ces 120 dernières années. Et à sujet exceptionnel, équipe exceptionnelle, puisque nous avons mélangé pour vous ce soir les équipes de PO et de Culture 2000. Et oui, avec moi ce soir, il y a donc Julie.
Coucou.
Il y a Thomas.
Coucou.
Il y a Johan.
Salut Sarah.
Et Marlène.
Salut.
Et avant de commencer, je vais poser la question traditionnelle chez Culture 2000. Et oui, je me mets un peu dans les pantoufles de Greg ce soir.
Grosse pantoufle.
Elles sont très agréables. Et bah,
attention au panari quand même.
Les JO, qu'est-ce que ça vous évoque? Et je vais commencer par Johan.
Eh ben, moi, ça m'évoque quand j'étais petit enfant, parce que j'étais en Grèce quand j'avais 7 ans. Et j'ai été à Olympie dans le, je sais absolument plus comment s'appelle ce stade, mais l'immense stade là où les mecs couraient. Et je crois que sous 45 degrés, comme j'avais 7 ans, je me prenais pour un petit marathonien. Et donc j'ai fait des grandes courses et tout. Et après j'étais trop mal, j'étais complètement déshydraté. Voilà, ça me rappelle ce bon souvenir.
Très bien, Julie.
Moi aussi, ça m'évoque des souvenirs de jeunesse moins lointains, mais devant les JO d'été, les JO d'hiver, sur ma télé, devant ma télé à zoner. Et notamment, les trucs qui m'ont marqué, c'est les commentaires toujours hyper pertinents de Philippe Candeloro qui commentait le patinage artistique.
J'adorais le patinage artistique.
Voilà, moi aussi, j'aimais trop Brian Joubert, tout ça. Et voilà, Nelson Montfort et Candeloro m'ont bien fait marrer.
Thomas?
Et ben moi, ça me rappelle les jours de pluie en été, parce que les jours de pluie, tu sais, d'habitude, bon, on est pareil, hein, j'ai un souvenir d'enfance. Puis les jours de pluie, tu ne vas pas à la plage, donc tu peux pas faire tes activités, donc tu remontes à la maison et tu allumes la télé parce qu'il y a pas grand-chose à faire. Et là, tu tombes sur les JO. Donc c'est, je vois le côté de la Normandie avec plein de pluie, donc assez souvent, tu as l'occasion de
regarder. Il y a beaucoup de tristesse
regarder,
dans voilà. ton souvenir.
Il y a beaucoup de JO aussi parce qu'il y avait pas mal de pluie à l'époque, mais c'est des moments sympas où tu avais le droit à avoir un petit paquet de chips en même temps, tu vois. Donc c'était les seuls moments à 16h où tu avais de la chips en même temps.
Télé-chips.
De la
télé-chips.
C'est marrant parce que moi les.
La vie de château.
Moi la pluie l'été, ça me rappelle plutôt le Tour de France en fait. Dès qu'il pleuvait, je regardais des ascensions du Tour de France. Voilà. Bon.
Moi ça me rappelle Roland Garros, mais en fait il n'y avait pas Roland Garros. Il y avait et la pluie dehors et rien à la télé. Roland Garros était annulé.
Mais on est très axé sur les jeux de l'été, tout le monde s'en fout de la neige, on est
d'accord,
on fait peur et on se fait mal aux genoux.
Ah non, moi j'adore, parce que c'est ce qu'on a dit, moi j'adore le patinage artistique.
Ouais,
donc
moi aussi j'adore.
Et toi Marlène?
Alors moi ça m'évoque un souvenir complètement absurde de prof, où en fait il y a quelques années pour les TPE, ces petits dossiers que tu devais rendre en terminale qui n'existent plus aujourd'hui, des élèves m'avaient écrit un dialogue entre Socrate et un de ses élèves, et à la fin il y avait un troisième élève qui ne parlait jamais, donc je me disais c'est bizarre quand même, ils ont fait le TPE à trois mais l'autre ne parle jamais, et puis là paf, il sort de son sac de flûte et se met à jouer de la double flûte en m'expliquant que bah, à l'époque des Jeux Olympiques on jouait de la double flûte.
Quel génie.
Et que du coup ça allait clôturer ce fameux débat sur la démocratie, ça n'avait aucun rapport mais c'était vraiment fabuleux.
Mais attends, voilà. Mais c'est censé être pluridisciplinaire le TPE, donc c'est parfait quoi, il a intégré de la musique.
Oui mais c'était pas musique la matière.
Ah, okay.
Bon, du coup c'était quand même un peu du génie, voilà.
Bah, moi j'ai pas trop réfléchi, mais mon TPE on l'avait fait sur les réactions chimiques.
Sarah, c'est pas ça la question.
Sur les réactions chimiques dans les gâteaux au chocolat, et on avait fait 4 gâteaux au chocolat, un sans battre les œufs en neige, levure, un sans farine.
Mais t'es vraiment en train de raconter ton TPE sur un épisode sur les Jeux Olympiques.
Je propose qu'on fasse tout ça.
Et vous? Eh ben non, mais plus sérieusement, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit extrait.
Et puis l'événement mondial du siècle, ce sont bien sûr les Jeux Olympiques de Nagano qui passionnent tous les insomniaques.
Oui, eh bien, ici à Nagano,
Aïe, il reneige.
Ah non.
Des flocons, avouons-le, d'un assez beau gabarit.
Oui, oui, non, mais Pierre, ça va pas être possible. Là. Vous avez quelque chose de spectaculaire à nous montrer, des résultats exceptionnels à nous donner?
Des résultats, oui. En bobsleigh, catégorie 4 places mixtes, avec femme à l'avant, de moins de 67,5 kg. Saluons la performance des Belges Herman, Van Kovenberg, Otto Goulashvili et Kubik. Quatre très beaux gabarits, ma foi, qui finissent 11e.
Oui.
Dans la catégorie biplace, messieurs, avec homme à l'avant et personne à l'arrière, le Castelroussin d'origine poitevine, Montillé, s'est classé pour la première fois dans les 80 premiers.
Oui, bon, Pierre.
Dans la catégorie 8 places cabriolet avec siège rabattable, les Arméniens.
Non, Pierre,
sont...
Pierre, ce qu'on va faire, c'est que vous continuez à donner des résultats, mais on les passe pas, hein, d'accord?
Franchement, on aurait pu faire tout l'épisode comme ça, hein. Ça aurait été plus facile pour nous.
C'était bien quand même, franchement, les guignols.
Les guignols de l'info. Ah oui, c'était très bien.
Stagie.
Bon, alors peut-être que avant de commencer, car je sais que dans Culture 2000, on aime contextualiser pourquoi fait-on cet épisode, pourquoi parler des JO chez Culture 2000 et chez EPO.
Bah pourquoi on en parle? Parce que c'est quelque chose qui a commencé il y a très 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 longtemps, comme on va le voir, donc ça nous permet de faire un gros comeback. Et puis les JO aussi...
Dans une galaxie très très lointaine.
Ouais, c'est ce que j'ai écrit, ouais, qu'est-ce qu'il y a. Et puis aussi les JO ont fait un gros comeback après une très très longue absence, vous verrez. Il y a 126 ans en fait, c'est relativement récent ce comeback, et c'est devenu en fait au fil des ans un enjeu politique et comme tu l'as dit géopolitique assez majeur. Et à l'heure actuelle, ça commence à poser des questions aussi de plus en plus climatiques, sociales, etc. Ouais. Qu'on verra en fin d'épisode. Donc ça permet de balayer plein de choses différentes.
Très bien. Eh ben, je vous propose de partir tout de suite. Retour en arrière dans une galaxie très très lointaine. Parlons des premiers Jeux Olympiques. C'était où, c'était quand que tout ça, ça a commencé?
Et donc oui, on repart en Grèce. Drut, hop, on remonte le vaisseau. J'ai bien fait le son pour remonter
ouais,
le temps.
Super bien.
On est à peu près il y a 3000 ans, en fait un petit peu moins. On n'a pas la date exacte, on est désolé de vous l'annoncer, des premiers JO.
C'est pas très pro quand même.
Voilà, en gros, il y a débat, on vous passe les détails, entre le 8e siècle avant Jésus-Christ ou le 7e siècle avant Jésus-Christ, on n'est pas certain. Mais grosso modo, les Jeux naissent à ce moment-là, donc à Olympie, hein, la ville qui donne son nom aux Jeux Olympiques. Mmh. Et ces JO vont durer pendant plus de 1000 ans. On parle des Olympiades à l'époque. On
un Reich de 1000 ans.
Non, Marlène, pas. C'est pas un Reich, mais c'est effectivement 1000 ans d'Olympiades, 1000 ans de fêtes, 1000 ans de jeux.
Ça fait long. Hein.
Et peut-être qu'on peut préciser tout de suite, à l'époque, il y a 4 types de jeux en fait. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques.
Oui,
je sais pas,
tout à fait.
Je veux bien lâcher la main là-dessus.
Oui, pan hellénique, c'est ça qu'on dit.
Pan hellénique.
Parce qu'en fait, il faut, petit élément de contexte, il faut comprendre qu'à l'époque, la Grèce, c'est pas un État. Enfin, d'ailleurs, il y a très peu d'États. C'est plein de petites cités-États qui se font la guerre, mais qui ont quand même une culture commune et des dieux communs. Donc c'est un truc qu'on a un peu du mal à imaginer aujourd'hui. C'est comme si voilà, on parlait tous français, mais qu'en fait on était tous de pays différents en venant de Marseille, Poitiers ou Paris.
Bref, c'est un peu vrai. Hein.
C'est un peu vrai, on peut dire.
Surtout quand okay. Tu viens de Poitiers.
Et donc il y avait 4 grands jeux panhelléniques, c'est-à-dire qui réunissaient toutes ces cités-états. Donc les jeux pythiques à Delphes en l'honneur d'Apollon, les jeux néméens près de Corinthe, des jeux ismiques en l'honneur de Poséidon, et puis les jeux olympiques en l'honneur de Zeus.
Voilà. Oh. Et peut-être dire que donc ils ont duré effectivement 1000 ans. C'est en 393 après Jésus-Christ qu'ils ont été interdits par l'empereur Théodose.
Théodose premier, parce qu'il y a eu d'autres Théodoses.
Et pourquoi il les a interdits?
Ouais, Théodose, il était un peu pas très fun. Il trouvait que...
non, mais les... Tu l'as connu toi, Théodose?
Ouais, c'est sûr, dans ce que tu dis. Extrêmement bien. Non, mais écoute, il trouvait que les jeux, en gros, c'était un truc indécent qui favorisait trop de mixité, que ça favorisait aussi des comportements inacceptables. Par rapport aux normes judéo-chrétiennes qui arrivent à ce moment-là.
Oui, parce qu'ils les font à poil quand même.
Oui, c'est voilà, ça.
C'est ça qu'il faut préciser, donc ça n'a pas trop
alors,
plu.
Ils les font à poil, c'est vrai, ça on va en reparler. Moi, c'est un élément
que j'aime bien. Moi, c'est ça que j'aime bien dans les JO.
Ah, c'est marrant, Marlène.
Tout de suite.
J'ai tout de suite pensé à toi, bizarrement. On vous racontera pourquoi est-ce qu'on pense
j'ai
à Marlène.
J'ai d'ailleurs hâte que notre prochaine soirée, on fasse des Olympiades, mais des vrais. On fera de la lutte, j'espère.
Voilà. La course en sac. Non, mais donc pour recontextualiser, effectivement, les Jeux Olympiques, il faut s'imaginer que c'était des compétitions sportives, on va développer un peu plus, mais aussi en fait qu'avait cette teneur religieuse, on rendait hommage à un dieu, comme le disait Marlène. Et en fait, à l'époque de Théodose, l'Empire romain avait intégré encore les Jeux Olympiques. En fait, il intégrait plein d'éléments de la culture grecque. Mais cet empire est devenu chrétien. Et en fait, c'est considéré comme une fête païenne, les Olympiades. C'est un truc polythéiste, etc. Donc, c'est pas bien. En plus, les chrétiens ont quand même déjà à l'époque un rapport au corps pas méga fandard, pas comme Marlène en soirée, par exemple. Et donc, effectivement, Théodose, bam, il dit game over.
Big up à tous mes élèves.
On les embrasse.
On leur enverra des photos. Donc, certes, bon, il y a une origine religieuse, blablabla, politique, on est content. Mais Thomas, quand même, on est là-bas pour faire du sport. Et quel type de sport à l'époque? Je crois qu'il y a trois grandes catégories de disciplines.
Tout à fait. Parlons sport. Il y a des catégories athlétiques, la catégorie sport de combat et la catégorie animaux.
Pigeons. Okay.
Les courses de chars qui sont l'ancêtre de les courses de Formule 1, par exemple. Donc, dans tout ce qui est les catégories athlétiques, il y avait le saut en longueur qui ressemble sensiblement à ce qu'on a aujourd'hui, sauf qu'effectivement, on était tout nus. Donc, on peut aller peut-être
plus loin. Non, mais
franchement,
c'est génial.
Oui, parce qu'on n'a pas les poids des vêtements, c'est très malin.
Imaginez le contexte, il n'y a pas les sponsors autour. c'est la piste, c'est a priori, je pense que c'est plutôt du sable. J'ai jamais été en Grèce, je ne sais pas comment
tout
est le sol à l'époque.
Mais non, oui, tout nu, ça doit rappeler les fesses quand tu fais du saut en longueur quand même.
Bon, peut-être c'est du synthétique.
Quand
t'atterris. Le fait c'est qu'ils avaient des poids derrière les mains et qu'ils balançaient leurs bras en arrière. Alors j'ai essayé de le faire chez moi, sans poids et sans piste, mais je n'ai pas compris l'intérêt de balancer ce point en arrière. Peut-être que ça
fait aller.
Ok, mais
oui, moi non plus, j'ai pas compris.
Alors je crois, mais je suis pas certain.
Ça
qu'en
bombe
fait,
le torse.
Non, c'est qu'en fait les poids, ça permettait dans un élément de mesure, je crois, à vérifier chez vous, enfin ou pas chez vous d'ailleurs, mais qu'en fait tu lâches les poids comme c'était des poids, je crois, en plomb ou
en bronze.
Ça tombe à la verticale et en fait ça permet d'être d'éléments de mesure. De voir en fait qui avait sauté le plus loin en fait. Je crois que c'est ça.
Oui, je crois que c'est ça aussi. Ok.
Bah, toujours bien d'être entouré de culture 2000 quand tu parles de sport. Comme ça,
tu parles de poids en bronze.
Waouh, il a gagné. Ouais. Super. Le lancer du disque, à ne pas confondre avec le jeté de CD-ROM qui ne marche plus. Donc c'était en plomb ou en bronze, c'est lourd. La technique, c'est sensiblement la même. On tourne et on crie, on jette le truc le plus loin possible.
J'adore ça.
Il y avait aussi des courses. Donc il y a plusieurs courses. Il y a une course qui s'appelait le Stadion, qui était le 200 mètres, le Diolos, le 400 mètres, et le Dolichos, une course de fond de 7 à 24 stades. Alors je suppose que c'est une unité de mesure. J'ai pas réussi à faire.
Non, le Dolichos, c'est un sandwich en fait, dans lequel il y a de la viande épicée.
Sur mon verre mesureur, j'ai pas la conversion, donc je ne saurais pas vous dire. Les sports de combat, on a de la
lutte.
Oui,
et c'est ça. Et en fait, pardon, juste les sports de combat, c'est ceux qu'on appelle les gymniques. Et en fait, j'avais pas compris. Je ne savais pas, mais gymnique, en grec, en fait, ça veut dire nu. Donc voilà. Donc c'était les sports, notamment. Enfin voilà, c'était pour dire que c'était des sports pratiqués nus et au corps à corps, quoi. Voilà.
Eh bien, parlons de sport nu. Alors, on n'est pas dans le clip de Shakira, on est d'accord, qui se passe dans la roue.
Shakira.
Mais il y a plusieurs sports. Il y a la lutte. Bah, le principe de la lutte, c'est simple. Il suffit de faire toucher les épaules de son adversaire au sol.
Tout nu, donc.
Tout nu.
D'accord, toujours.
C'est un peu le judo de l'époque, en fait. Sans le...
Oui,
non, on peut le dire comme ça.
On peut le dire comme ça, sauf qu'on a le front qui se touche, les mains jointes et qu'on est tout nu.
Ouais.
Pas que le front, donc.
Vous insistez beaucoup sur la nudité, ça a l'air de vous perturber.
Franchement, Teddy Riner, tout nu. Pourquoi pas?
Sarah, on ne veut pas le savoir.
Attends, parce qu'on en vient au pugilat. Donc, le pugilat, moi, j'ai.
Ça a l'air moins simple.
Pour moi, c'est une expression, tu sais, par exemple, je viens d'être papa, et pour moi, c'est le pugilat, tu vois. Okay.
Bah, et on salue ta fille.
C'est pas du tout ça. Le pugilat, c'est de la boxe sur laquelle on met. Alors, sur ces ponts, on met des petits cesses, c'est des lanières en cuir, et ça ne protège pas du tout des coupures. C'est pour ça qu'on a des gants avec des forces différentes de hausse qui sont rembourrées ou pas. Là, on peut se couper très, très fort, et c'était vraiment hyper violent, et il n'y a pas de catégorie de poids.
Ça, c'est génial.
Ça, c'est incroyable.
Il n'y a pas de catégorie, non mais l'enfer quoi.
L'enfer.
T'imagines Younes avec son grand corps fin contre Riner ou Ngannou, pour ceux qui connaissent un peu l'Ultimate Fighting, l'UFC. Il n'y a pas de round non plus, ça se termine quand il y a abandon, chaos ou la mort de quelqu'un.
Ah bah voilà, c'est pratique si, du coup.
C'était assez rare je crois.
Mais on n'a pas le droit de tuer, mais ça peut arriver.
Globalement, quand tu te prends des coups de lanière, au bout d'un moment tu peux...
Ouais,
surtout si t'es Younes contre Teddy Riner.
Le pancras, c'est un peu l'ancêtre du jiu-jitsu brésilien. Le but du jeu, c'est de se mettre une soumission. Mission, c'est soit un étranglement ou une clé de bras. Fait ce qu'on veut, on peut se bagarrer comme on veut, mais il est assez bien vu de s'immobiliser.
Oui, alors moi, j'ai lu que sur le pancrace, globalement, c'est pareil. Hein, ça s'arrête par chaos ou parfois, malheureusement, par la mort. On a le droit de tout faire, c'est hyper violent. Par contre, c'est quand même interdit de mettre le doigt dans l'œil ou dans la bouche
ou de tirer
l'oreille et les parties génitales. C'est vraiment des trucs un peu nuls par rapport au fait de se prendre des maxi-mandales.
Mais si, parce que sinon, il n'y a pas de combat, en fait. C'est-à-dire que t'arrives, tu fous les doigts dans l'œil, tu tires les couilles. Bon, bah, globalement, game over, le jeu est fini.
Oui, mais on a le droit de mettre les doigts dans les fesses, alors.
Bah, c'est pas interdit, ouais.
Ça, c'est l'olive.
C'est le règle d'un sport qui est assez controversé en ce moment, qui est le MMA. On est quand même assez proche, on peut dire que c'est vraiment.
Ils ont le droit de mettre le doigt dans l'œil dans le.
On n'a pas le droit.
En tout cas, t'as bien résumé, effectivement. Donc, il y a ces trois grandes catégories, athlétique, sport de combat ou gymnique et le char hippique.
Comme dans Bénure.
Et en fait, il faut savoir qu'il y a une discipline transverse qui est le pentathlon, qui est un peu la discipline reine de cette époque des Jeux Olympiques, où en fait, il y a cinq disciplines. C'est surtout les disciplines athlétiques. Donc, il y a le disque, le javelot, le saut en longueur, la course et la lutte. Et l'ordre est quand
même
important.
Comme ça, tu meurs à la fin.
Parce que quand t'as appris la lutte, voilà, si tu commences par la lutte, globalement, tu risques de pas pouvoir faire les autres épreuves. Mais apparemment, en gros, tu gagnais le pentathlon, t'étais vraiment l'athlète des athlètes, c'était vraiment la discipline reine. Quoi,
bah justement, par rapport à ce que tu dis, qu'est-ce que tu gagnais à l'époque? Parce que je crois pas qu'on avait les petites médailles d'or, de bronze, d'argent comme aujourd'hui.
Comme à Cannes, une palme. Genre t'as gagné toutes les épreuves athlétiques parce qu'en fait t'étais pas spécialisé à l'époque, donc il fallait t'inscrire dans toutes les disciplines,
quoi.
Et tout ça, t'as une palme, quoi. C'est tout ça, une couronne d'olivier, beaucoup de, vachement la gloire quand même, le prestige. Ouais. Et en fait c'est plutôt une fois que tu rentres chez toi à ta cité que c'est vraiment le jackpot.
Alors, cité.
Là, dans la cité, voilà, tu rentres, t'as la couronne d'or,
on joue de la double flûte,
voilà quoi, c'est la folie. C'est une dinguerie. On t'enlève tes impôts. On te file la bouffe à vie aux frais de la cité. Bref, en gros, t'as beaucoup plus d'avantages parce qu'en fait, ça te ramène la gloire
sur la cité.
C'est ça. En fait, il faut le relier à ce que disait Marlène tout à l'heure, c'est que c'est à la fois une fête religieuse, c'est plein de cités grecques qui sont quand même un peu en compétition les unes avec les autres. Compétition,
ouais, qui se font maxi la guerre
qui
aussi.
Qui se font la guerre, voilà, compétition politique et économique. Et donc, il y a vraiment une énorme rivalité et il y a un intérêt, effectivement, à avoir des athlètes chez soi. Et donc, contrairement, on en reparlera, mais à ce que Coubertin, après, à l'heure moderne, a inventé, qui est soi-disant l'amateurisme, etc. En fait, on a un peu mythifié ça. C'est des amateurs. Ouais. Enfin, il n'y avait pas la distinction amateur-professionnel. Ça veut rien dire dans l'Antiquité, mais c'était quand même des mecs a priori de l'aristocratie et très entraînés toute leur vie parce que il faut avoir son petit poulain quand t'es de Sparte ou de Athènes ou de je ne sais où pour amener au JO et pour ramener la gloire dans ta tête.
Et puis surtout, en fait, il y avait même en fait un genre de mercato des athlètes où finalement certaines cités essayaient de s'arracher certains athlètes, même si en fait c'était un peu de la débrouillardise et des trucs pas très réglo dans le sens où normalement, pour être athlète, justement, il fallait être citoyen. En tout cas, à Athènes, ça, c'était sûr, puisque c'est là que, notamment, vraiment est né le concept de citoyenneté. Et être citoyen à Athènes, ça veut dire être athénien. Donc, quand t'es étranger, tu peux pas être citoyen, etc.
Quand t'es une femme.
Quand t'es femme, également.
Oui, quand t'es une femme, bon, évidemment. Voilà, mais tout ça pour dire que, du coup, c'était quand même réservé à une minorité de la population et, en plus, parmi cette minorité, aux plus riches, c'est-à-dire ceux qui pouvaient, en fait, bouffer et faire du sport.
Bah, en fait, c'est ça,
bosser,
s'entraîner
quoi.
Sans bosser, oui.
Voilà.
Alors, il y avait quand même quelques femmes. Mais très jeune. C'était les adolescentes, c'est ça ?
Les adolescentes non réglées. Donc, c'est
non mariées.
Mais on voit bien, alors évidemment, ça choque aujourd'hui, mais. Je vais pas le justifier. Non, c'est pas ça.
Mais à l'époque, mais il faut encore remettre une fois, les choses dans leur contexte.
Je mets du culture des mille, voilà. Remettons en son contexte. C'est des fêtes religieuses. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais en fait, c'est des fêtes sportives, mais aussi culturelles. Et dans les Olympiades, mais les trois autres types de fêtes dont a parlé Marlène, y a l'élément musical, notamment, est très important. Donc, on honore les dieux pendant ces fêtes-là.
D'où la double flûte. Voilà, vraiment, qui n'est pas une invention de mon élève de TPE.
Voilà. On s'entraîne.
Et donc,
il
y a une dimension effectivement politique, rite de passage. Donc, il faut que ce soit des citoyens, des hommes. La nudité, d'ailleurs, ça a à voir avec ça. Parce que pourquoi la nudité ? C'est seuls les citoyens, normalement, ont le droit d'être nus. C'est un privilège, en fait, des citoyens, notamment à Athènes.
C'est un symbole de patriotisme.
Exactement.
En fait.
Donc, en fait, être nu, c'est pas juste pour le kiff ou parce qu'on peut pas se payer des vêtements, mais parce que ça dit quelque chose politiquement et même religieusement.
Peut-être qu'il kiffait quand même.
Après ça, à l'époque, on les a pas interviewés.
C'est la
pas.
Mise en valeur du corps masculin nu, c'est un canon esthétique de la Grèce classique, donc il y a ça aussi.
Belle époque, belle période. Bon alors, on l'a dit,
voilà.
En 393 après Jésus-Christ, l'autre, il nous dit c'est finito, vos trucs païens, on arrête. Et il va quand même falloir attendre 15 siècles pour qu'un petit Manos, là, il ait l'idée, quand même, il allait chercher son truc assez loin, de ressusciter. Donc ces JO, ça va être les JO modernes. Les premiers vont avoir lieu, tout un symbole, à Athènes en 1896. C'est qui alors ? Racontez-moi à qui on doit cette renaissance et Pierrot surtout.
Ouais, Pierrot le fou. Le baron Pierre de Coubertin, d'ailleurs, il voulait les faire à Paris, ces JO, mais il n'avait pas l'influence et la thune nécessaires. Donc en fait, c'est un peu par défaut qu'il arrive à Athènes en 1896. Donc c'est les premiers JO modernes.
de ce baron qui est donc une vieille aristocratie fortunée. Et en fait, l'idée lui vient d'Angleterre où il est allé en voyage parce que l'Angleterre, c'est quand même le pays qui pèse à l'époque, première puissance économique, coloniale, maritime. Donc il se dit, bon, c'est quoi la clé du succès des rosbifs ?
Le capitalisme.
C'est-à-dire qu'il voit qu'en fait, sur place, on a intégré le sport au système éducatif et que ça a permis notamment de former des élites qui sont prêtes derrière pour aller dans le game un peu commercial, ouais. Impérial. C'est-à-dire que ça leur apprend l'esprit d'initiative, une forme d'adaptation, l'apprentissage des règles.
C'est des winners.
Non, mais c'est tout le truc qu'on voit dans les vieilles, dans les grandes et anciennes universités anglaises d'Oxford, de Cambridge, où en fait il y a les équipes de rugby qui sont notamment qui sont reliées aux universités. Ah, donc oui. C'est voilà, les équipes sportives sont très souvent universitaires à l'origine. Donc c'est vraiment l'idée de former les gentlemen et en fait les nobles au fait de cultiver à la fois leur esprit mais aussi leur corps.
Ouais. Voilà. Et moi, j'aime vraiment bien cette histoire parce que on dit souvent un peu rapidement, c'est Pierre de Coubertin, comme si tout seul il s'était réveillé après 1500 ans de sommeil de Jeux Olympiques, genre, ah, j'ai une trop bonne idée, on n'a qu'à redévelopper ce jeu qui avait l'air marrant. Effectivement, c'est un contexte où la fin du 19e, partout en Europe, l'éducation, ça devient une question politique centrale, et l'éducation sportive, en fait, c'est presque à ce moment-là qu'on invente le sport. Enfin, évidemment,
ça existait déjà, mais le sport, le scoutisme, tous ces trucs-là.
Le sport au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, en fait, former une élite, et notamment les deux grandes vertus dont on par le sport. Quand Coubertin il va voyager en Angleterre dans les public schools, donc ces universités anglaises, etc., il se rend compte qu'en fait ça permet de développer des vertus d'esprit de corps de l'aristocratie. Donc c'est vraiment le sport, c'est pour la grande élite, c'est pour ça que c'est amateur, parce que t'es pas obligé de bosser. C'est du coup des valeurs virilistes, etc., de esprit de corps, tolérance à la douleur, l'endurance, voilà. Et l'autre
question...
Que des
trucs qui font du bien à la société.
C'est des valeurs élitistes, justement, ce que tu disais, Julie, esprit de compète, discipline physique, etc. Donc, vraiment, cette idée de modeler le corps et l'esprit d'une grande élite, et notamment, pourquoi Pierre de Coubertin, il est obsédé par ça ? Parce qu'à la fin en 1896, la France, elle a perdu notamment la guerre contre la Prusse.
Oui.
Et en gros, elle est en train de se rendre compte, c'est plus la première puissance mondiale, il y a les Britanniques, il y a les Allemands, voilà. Et donc, l'obsession des nouvelles élites aristocratiques française, c'est comment on va former une nouvelle élite concurrentielle. Voilà. Et donc, le sport, c'est un peu la recette magique qu'on invente à ce moment-là.
Et c'est aussi une façon, d'ailleurs, de faire incorporer des normes à ces élites. Et c'était quelque part aussi une manière un peu de les humaniser auprès du mouvement ouvrier, parce qu'en fait, c'est aussi un moyen, le spectre révolutionnaire qui plane quand même. Et donc, faire incorporer ces normes, une activité physique, ça permettait de faire une sorte de rempart aux révoltes en transformant les classes dirigeantes françaises, en disant, regardez, en fait, ils sont comme vous, ils font du sport, etc. Ouais. Il y avait cette idée-là aussi.
Et puis bon, oui, voilà, ce que tu disais aussi, l'idée un peu d'aplanir les relations internationales. Et d'ailleurs, depuis que les JO ont été remis au goût du jour en 1896, il n'y a plus jamais eu de guerre dans le monde.
Non, c'est ça, ça a marché.
Et d'ailleurs, c'était pareil en Grèce. Non, mais ça, c'est vraiment intéressant parce que, mine de rien, pareil, il n'invente rien, hein, Pierre de Coubertin. Il reprend aussi l'outil grec qui était aussi un outil diplomatique, puisque pendant les Jeux, il y avait l'idée qu'en qu'il y avait une trêve au moins pour la cité qui organisait ces Jeux. Donc il reprend cette idée à une époque où les nationalismes sont hyper forts, fin 19e, où on est dans la course coloniale vient de se terminer, on vient de se diviser toute l'Afrique et la conférence de Berlin, voilà. Et justement, dans ce contexte d'essor des nationalismes, on essaye d'aplanir et d'aller discuter en gentleman en faisant du sport.
C'est vraiment de la catharsis, en fait. C'est l'idée de dire, pour que les élites ne soient plus violentes entre elles et qu'il n'y ait pas de guerre entre les pays, effectivement, on fait des guerres de compétition sportive. Ça a très, très bien marché, comme tu disais, ouais. Sarah, parce qu'il n'y a pas du tout une première guerre mondiale qui arrive 10 ans après et une deuxième qui arrive 20 ans après. Quoi. Donc, bravo.
En tout cas, donc, c'est reparti. On refait une compétition sportive comme dans l'Antiquité, mais quand même avec quelques changements, notamment la dimension religieuse qui a disparu. Et ça va être avec l'invention du chronomètre, des records, la course à la performance. On va guetter d'ailleurs les records olympiques à chaque fois. Et d'ailleurs, Thomas, est-ce que tu nous donnerais peut-être, à propos de records, peut-être par exemple les sportifs les plus titrés des JO modernes ?
Eh bien, avec plaisir. Et j'aimerais ajouter une petite touche personnelle là-dessus, parce qu'il y a quelque chose qui me
chagrine un peu là-dedans. Parce que moi-même, j'ai battu un record olympique.
Wow. Bon, allez, les vrais champions. Michael Phelps avec...
tu pouvais rajouter ta touche personnelle.
C'est après, parce que ça va dans l'enchaînement. Tu sais, d'abord le bon et après, paf, on casse. Le nageur Michael Phelps avec 28 médailles en 4 Olympiades et 23 titres. Donc, il y a 8 médailles d'or aux JO, notamment en 2008 à Pékin, ce qui est pas mal.
La gymnaste, pas mal.
Pas mal. Bravo. Bravo à lui.
Moi, aux Olympiades du Centre de Loisirs, j'en ai fait 10 quand j'étais au CM2.
Franchement, pas mal.
En or ? 10 en or
en
ou
chocolat. C'est bien meilleur. Le... Donc la gymnaste de l'URSS, Larissa Latinima, avec 18 médailles, dont 9 en or.
Pas mal aussi.
Et le premier français, c'est Martin Fourcade, à la 50e position.
57e.
Avec... 57e, pardon. J'ai dit 50...
50e.
57e, bah c'est 7 de plus. Avec 7 médailles, dont 5 en or.
Bravo
c'est...
les Français, Cocorico.
Bravo, Cocorico.
Je... On en a parlé de Martin Fourcade. Je crois que je l'ai pris en exemple comme sportif lisse, il y a dans un épisode
oui,
ancien dont je ne sais même
pas. Ah, vous aimez pas Fourcade?
Moi, je le déteste pas. Moi, je l'aime bien, Fourcade. Il est fort quand même.
J'ai pas d'avis.
Voilà, on parlait de sportif. Hein, tu sais qu'il y avait... Voilà, bon. Dans les nations les plus titrées, il y a les États-Unis qui sont loin devant. Avec, mais en même temps, c'est des tricheurs parce qu'ils inventent des sports. Le basket américain, le baseball américain,
le football américain.
Faut quand même le signaler. Après, ils sont loin devant. Ils ont plus de 2900 médailles.
Ouais, c'est pas mal.
Si on cumule l'URSS plus la Russie, c'est aussi une forme de triche parce que tu vois, en termes de pays, il y a des petits arrangements. Eux, ils sont à 1700 médailles. Il y a l'Allemagne sans la RDA. Eux, ils se mettent volontairement dans la merde. Donc, avec plus de 1200
ils sont là, les Allemands, ils n'ont pas besoin d'avantage pour gagner le game.
La Grande-Bretagne triche parce que c'est on est réunis aussi plus de 900, la France plus de 800 devant la Chine.
Alors que nous on n'a jamais triché par contre.
Bizarrement, Thomas, on est les seuls qui n'avons pas triché.
C'est ouf, on est quand même devant la Chine, on est cinquième quoi.
Bon, ça va pas durer, je crois, cette histoire.
Mais ça c'est un élément qui est hyper intéressant, c'est que si tu regardes le classement en fait des pays les plus titrés, c'est grosso modo le classement des PIB du 20e siècle. Et c'est pas pour rien que la France est devant la Chine et que ça va pas durer très longtemps.
Tu veux dire que quand on a de l'argent, on gagne plus de médailles.
Mais alors ça paraît évident, mais c'est quand même rappelé, effectivement, les JO, c'est censé à la base être des sportifs amateurs, mais il y a tout un élément où derrière l'amateurisme, eh ben, en fait, c'est combien et comment les pays investissent dans des fédérations sportives, et donc avoir des infrastructures dans toutes les villes, les quartiers, etc., des centres de formation. Et non, mais voilà, mais c'est intéressant, et en fait, c'est un enjeu d'investissement économique, et si on regarde le classement des nations olympiques, bah, en fait, c'est le classement des nations économiques, quoi. C'est triste, mais. Pardon, hein, Thomas.
Non, mais je t'en prie. Et moi, je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. S'il y a déjà, il y a une chose. Je crois que, alors, en ce moment, la Russie a des petits soucis avec le sport puisqu'ils se font enlever toutes leurs médailles, tous leurs athlètes, etc. Il me semble même que, si tu dis pas de bêtises,
à cause de dopage avant l'Ukraine.
Avant l'Ukraine, il y avait un souci de dopage. Ils se sont fait, même dans les jeux vidéo, parce que c'est comme ça. Tu prends un athlète russe, il y a pas son drapeau. Ils ont enlevé le drapeau.
Bah oui, au dernier JO de Tokyo, donc c'était avant. Avant l'invasion de l'Ukraine, en fait, c'était, je sais plus comment ils appellent ça, c'est pays, enfin vainqueur sans nation, et en fait, tous les athlètes russes apparaissent, ils ont plus le droit de représenter la Russie. C'est pour des bails de dopage,
Et deuxième chose sur les, donc là, on voit que donc ça, c'est grâce à Coubertin, grâce à cause de dans la dimension des stats, etc. On voit qu'aujourd'hui dans le sport, alors pas que dans les Jeux Olympiques, mais même quand tu vois dans le basket, dans le football, il y a plein de sports collectifs, je trouve, qui sont maintenant vraiment pourris par l'idée des stats, du record, parce que tu vas avoir le souci d'aller chercher ton record personnel. Je pense à quelqu'un, étant supporter du PSG, je déteste Mbappé. Parce que
ça va créer des histoires.
J'accepte pas que t'attaques Kylian.
Sans problème. Non, mais c'est le symbole pour moi de la personne qui n'est capable de pas faire une passe parce qu'il faut aller toujours plus loin dans les stats individuels. Donc quand tu te bats contre toi-même dans une piscine, parce que si tu ne nages pas, tu meurs et que tu coules, ok. Mais quand tu es dans des sports collectifs, j'ai un peu du mal avec ce principe de stats. La NBA, par exemple, j'adorais le basket. Le basket, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est que de la stat, il compte même celui qui a fait le plus de pas. Je leur en veux d'avoir amené ce côté-là.
Ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, aujourd'hui, bon, c'est le paroxysme de ça, mais si on remonte déjà à Coubertin, donc il y a 130 ans, je crois, à peu près, aujourd'hui, effectivement, c'est lui qui introduit notamment la devise olympique, qui est en latin, je ne vais pas vous la faire en latin, mais qui est plus vite, plus loin, plus fort. Et en fait, c'est cette idée.
C'est l'extrême limite.
C'est les Daft Punk aussi. C'est surtout ce que veut faire notre gouvernement sur l'écologie, je crois.
Oui.
Mais, bah merde.
Et en fait, je trouve ça dit beaucoup de choses de l'époque. Hein. On est à la fin du 19e siècle où le positivisme, qui est un petit peu notre dada à Culture 2000, notamment, vous en parle beaucoup, qui est cette époque en fait de foi totale en la science, le progrès. Et donc, tu as raison, ce qui n'était pas du tout présent chez les Grecs, en fait, ce qui comptait, ce n'était pas le record chez les Grecs, c'était de gagner. Oui. Donc en fait, fallait juste être. C'est comme le concours, fallait être devant les autres. Ouais. Même si tu faisais une course de merde, si tu étais devant les autres, c'était bien. Aujourd'hui, ce qui compte, depuis la réintroduction des JO, c'est vraiment de battre des records. Et il y a cette idée derrière, hein, plus générale, de progrès permanent de l'humanité. C'est ce qui a développé aussi, on le verra, en lien avec les JO, mais des théories raciales, des trucs très chelous de, en fait, c'est qui est plus fort. Est-ce que c'est les noirs ou est-ce que c'est les blancs? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes?
Ah oui. Parce qui court le plus vite.
Mais parce qu'on veut artificiser absolument la performance pour la performance, qui est un truc très individuel.
Et donc, on va avoir donc les premiers Jeux modernes à Athènes en 1896, qui sont organisés, donc va être mis en place le Comité international olympique 2 ans avant, qui est donc une organisation internationale inédite, autonome, avec ses propres règles qui échappent aux États et qui va être pas vraiment composée d'ouvriers ou de paysans, je crois.
Non, pas vraiment. En fait, c'est toutes les classes dominantes sont réunies, en fait, donc les aristos, les grands diplomates entrepreneurs, les généraux d'empire, les hommes politiques, universitaires, militaires, etc. En fait, Coubertin a un gros carnet d'adresses, hein, beaucoup de thunes. Donc, il a tout ce qu'il faut pour organiser ce truc complètement inédit, hein, comme tu dis, Sarah est nouveau et qui va avoir un pouvoir assez fou, qui va, au fil des années, complètement absorber les fédérations sportives, essayer de les acheter pour bien garder sous sa coupe tous les sports. Et donc, c'est Coubertin qui est le premier président, effectivement, du CIO, et on va en reparler de toute façon.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, dans l'Antiquité, il n'y avait que les citoyens athéniens qui pouvaient concourir aux Jeux Olympiques. Mais je suppose que maintenant, tout le monde peut y aller.
Moi, j'y vais, là, au prochain. Ouais.
Putain, c'est super. Ouais. Bravo, Marlène.
Mais oui, en tout cas, c'est ce qu'on disait, c'est que les jeux antiques, donc, c'était ouvert aux citoyens. Et en fait, il n'y avait pas cette question d'amateurisme. Mais donc, c'est ça que va reprendre Coubertin en disant en fait, que les Jeux Olympiques, c'est...
Voilà, non professionnel.
C'est un peu le talent show, quoi. Chacun vient avec ses talents d'amateur. Et donc il y aurait l'idée d'un jeu olympique désintéressé de l'argent, etc. En fait, il faut que tu pratiques vraiment ce sport pour le plaisir et pas du tout pour en fait en vivre. Ce qui est du coup forcément, à partir du moment où tu estimes qu'il n'y a pas de rémunération, ça veut dire que tu réserves quelque chose aux plus riches. Voilà, c'est tout.
Moi, je trouve qu'il y a deux trucs hyper intéressants donc sur cette partie d'idée de dire que les Jeux Olympiques, quand ils ont été créés, les Jeux modernes sont pas du tout inclusifs et pas du tout voilà. C'est que effectivement, comme tu disais, Marlène, c'est en gros réservé à la grande bourgeoisie, voire à l'aristocratie.
Parce que t'es pas payé pour aller.
Parce que c'est voilà, c'est l'esprit de corps, c'est pour la beauté du geste, quoi.
Et
on va dire.
Je crois que pour le coup, les médailles aux Jeux Olympiques, c'est pas des sommes faramineuse.
Non, parce que
bah, t'as pas...
Je crois qu'il touche truc.
Mais t'as raison, il y a très peu d'enjeux d'argent.
Mais c'est vraiment très peu, quoi.
Ouais, il y a très peu d'enjeux d'argent, contrairement aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on dézoome un peu des JO et si on regarde le développement du sport, donc à cette toute fin 19e, début 20e, en fait, il y a une mouvance plus profonde qui est en fait un espèce de combat, pour le coup, un peu de classe sociale, entre un sport populaire qui veut la professionnalisation, parce que bah, les ouvriers, ils ont besoin d'avoir un salaire s'ils font du foot ou s'ils font de la gym pour pouvoir s'entraîner, et un sport amateur. Grand bourgeois. Et ce qui est marrant, c'est que derrière ça, il y a l'enjeu quand même, enfin une mouvance plus profonde qui est de développer le sport pour les grandes élites comme un enjeu de paix sociale. Et donc notamment la grande question, la grande peur des élites fin 19e siècle en Angleterre, en France, en Allemagne, ben, en gros c'est la peur de la lutte des classes et de la révolution des ouvriers. Et donc en réponse à cette question sociale, à cette politisation des ouvriers ou à cette misère urbaine, etc., en fait ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais le sport, l'éducation, c'est vraiment un enjeu central d'encadrement des classes populaires. Et donc, par exemple, dans toutes les usines, on va commencer à développer des clubs de gymnastique, des clubs de foot, pour que l'ouvrier, il n'aille pas soit se saouler la tronche au bar, soit se syndiquer, mais qu'il fasse du sport et qu'il admire ces grandes élites que seront... Parce que lui, il ne pourra pas aller au JO parce qu'il travaille toute la semaine à l'usine.
Parce qu'il est plus fatigué.
Mais effectivement, ça rejoint ce que tu disais, Julie, tout à l'heure, c'est un peu un truc de paix de classe. C'est genre, on partage ce point commun.
Ça me fait penser, on a fait un épisode sur l'ASM de Clermont, donc le club de rugby de Clermont-Ferrand
qui était lié à Michelin
et en fait on offrait du boulot à Michelin aux bons rugbymen pour qu'ils viennent après dans l'équipe.
Désolé, je vais parler de Saint-Etienne, mais l'histoire du club de l'AS Saint-Etienne, c'est Casino.
C'est la
couleur verte du maillot stéphanois, c'est le maillot de Casino, et c'était un club d'entreprise. La plupart des grands clubs historiques de foot anglais, pareil, c'est des clubs d'entreprise
comme Sochaux avec Peugeot.
Et juste derrière ça, ce qui est du coup intéressant, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a un combat en fait entre les clubs de sport de milieu populaire et les fédérations omnisports amatrices. Et notamment, en fait, avant de créer le CIO, déjà en France, en fait, ils créent des fédérations omnisports pour avoir la main mise et dire, ok, on institutionnalise le sport pour que ce soit pas du truc de prolo professionnel, mais que ça reste une défense du sport bourgeois amateur, de la beauté du geste, etc.
Et les choses vont quand même un tout petit peu changer à partir de 1917 et la révolution russe quand même, où on va voir se développer aussi une action sportive comme moyen de mobilisation du prolétariat par les communistes. L'URSS va intégrer le CIO, etc. Donc peu à peu quand même se développe une idée que de ce sport dans les classes populaires.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'un des présidents du CIO a dit que justement intégrer l'URSS au CIO, ça avait contribué à sa chute parce qu'en fait, le sport, c'est quoi ? C'est la hiérarchisation des individus en fonction de leurs compétences, la compétition. C'est un peu le contraire des idéaux communistes.
Oui, mais il y avait cette idée, effectivement, pour le coup, de vouloir faire une compétition de modèle. Ouais. On est dans une époque, le début du XXe siècle, où en fait, il y a la question de l'encadrement des masses, que tu sois communiste ou que tu sois nazi, la question de l'encadrement des masses et des foules, elle est hyper importante. Et donc, effectivement, par le sport, par justement les performances sportives, tu es censé prouver l'utilité de ton modèle politique et social. Quoi.
Et puis en fait, c'était aussi un moyen de finalement d'intégrer des populations qui pouvaient être qui pouvaient résister ou s'opposer au sein des États. Là, on a parlé de la classe ouvrière, mais ça marche aussi avec le colonialisme, où en fait, voilà, Coubertin tout de suite va vouloir intégrer finalement des jeux africains. Bon, ça va quand même être refusé par la France, faut pas déconner. Mais en tout cas, il va vouloir intégrer les élites colonisées à cette pratique sportive pour représenter la France finalement le sport, ça crée aussi un sentiment d'appartenance, un sentiment de reconnaissance potentiellement qui serait pas dangereux et qui permettrait de neutraliser les contestations et les débuts de revendications indépendantistes dans les colonies.
Mais d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois qu'au tout début, le CIO, la majorité du CIO était contre le fait de faire concourir des athlètes noirs, parce que bizarrement, comme c'était des aristos de la fin du 19e siècle, ils étaient tous méga racistes.
Oui,
et
bon.
Coubertin est un des seuls qui est plutôt favorable, mais pas parce qu'il est spécialement de gauche ou quoi, on verra qu'il aime bien les nazis plus tard, mais parce que globalement, en fait, il se dit justement c'est une manière d'intégrer, d'assimiler en fait les populations
c'est ça,
africaines.
D'acculturer,
Bon, très bien, je crois qu'il est venu l'heure de siffler la mi-temps avant de nous retrouver. Et qu'est-ce que tu nous proposes, Johan, pour patienter ?
Alors, ce que je vous propose, comme on est jeune et branché, j'ai prévu du hit plein de vocodeurs avec des gros beats qui tâchent du beat pour shaker son booty sur le dance floor avec 0% de prise de tête, 0% de politique, 0% de second degré. Le blaze de cette collab 100% millennials, c'est Catherine Sauvage sur une chanson à texte engagé original du chanteur-compositeur-interprète Henri Tachan en 1973.
Allez, on écoute.
Ce sera chouette les Jeux Olympiques, tous ces athlètes dans la foulée, pour un marathon fantastique, à la seule force du mollet. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, l'émulation sur la cendrée. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, si nom de Dieu, il n'y avait. Leur petit drapeau, leur petit fanion, couleur kaki, caca quoi des frontières. Leur petit drapeau pour chaque nation qui claque au vent d'une musique militaire. Ce serait chouette, les souvenez-vous, les n'oubliez pas que la guerre est conne. Les recueillements sur les tours où les soldats fusillés dorment. Ce serait chouette, les souvenez-vous, les manifestations de paix. Ce serait chouette, les souvenez-vous, si nom de Dieu, il n'y avait. Leur petit drapeau, leur petit fanion, leur petit tambour qui batte la cadence. Leur petit drapeau, leur petit fanion qui claque au vent d'une minute de silence. Ce serait chouette d'aller sur la lune, dans le scaphandre de Pierrot. J'y emporterai bien ma plume pour vous écrire quelques mots. Ce serait chouette d'aller sur la lune en vacances pour mille étés. Ce serait chouette d'aller sur la lune si, nom de Dieu, il y avait. Leur petit drapeau, leur petit fanion, pour cette fois, ricain de préférence. Leur petit drapeau, leur petit fanion, leurs petites étoiles, la grande ours en balance. Ce serait chouette si tous les drapeaux voulaient bien se donner la rampe. Ça ferait des pyjamas très beaux, des les rampes. Ce serait chouette si tous les drapeaux finissaient un jour de ras de lit. On y ferait l'amour bien au chaud avec les gars de leur pays. On y ferait l'amour bien au chaud avec tous les beaux gars de leur pays. On y ferait l'amour bien au chaud avec tous les beaux gars de leur pays. Oh ya la ya.
Merci beaucoup, Johan, pour ce choix audacieux.
C'est lui qui a interprété la...
Oui, c'est lui. J'imite très bien Catherine Sauvage. C'est j'adore Catherine Sauvage. Voilà, écoutez, Catherine Sauvage, cette femme est géniale.
Et Morane.
Et Morane aussi. Ouais.
Ah non, Rane. Alors, ça me fatigue. Alors, on l'a vu avant la pause, les Jeux Olympiques, ils sont nés dans l'Antiquité. Ensuite, il y a le baron, il a dit « Allez, on les remet au 19e siècle ». Et ça va fonctionner plutôt pas mal, puisque dès les années 20, on va décider que, alors qu'on fait déjà des JO d'été tous les 4 ans, et on va remettre une petite couche, parce qu'on va mettre les JO d'hiver en plus, alors juste pour pas que ça vous perturbe trop.
Le patinage artistique.
Pour Marlène, c'est pour ça qu'on le fait. À l'époque, c'est la même année, les JO d'hiver et les JO d'été, et c'est que un peu plus tard, je ne sais plus exactement
c'est
quand.
C'est depuis 94 qu'on a...
Voilà, c'est très tard finalement qu'on décale en se disant « Attends, c'est quand même encore plus de bises et d'argent, à mon avis, de les décaler et de les faire tous les 2 ans. »
Bah oui, enfin, bien sûr.
C'est voilà. Aussi le moment où, en fait, de rajouter des jeux d'hiver comme ça, ça va favoriser l'influence du CIO dans le sport international. Et en fait, toutes les fédérations internationales sportives vont devenir des fédérations olympiques à ce moment-là. Donc le CIO va les intégrer un peu à son grand système de contrôle international du sport.
Oui, et puis ça permet aussi d'aller chercher un peu d'autres villes qui...
C'est ça, de rajouter un autre truc.
Ouais, d'autres villes et puis d'autres sports, quoi. D'autres parce sports, que globalement, si tu vis à Chamonix, par exemple, là où ont lieu les premiers jeux d'hiver en 24, bon, bah, tu fais plutôt du ski, tu fais plutôt du bobsleigh, je suis pas sûr à l'époque, mais peut-être du patinage. Et donc, oui. Effectivement, ça intègre des nouveaux sports. Et comme tu le disais, ça renforce en fait la toile du CIO sur le sport mondial.
Bah d'ailleurs, peut-être, Thomas, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur l'augmentation du nombre de sports représentés? Des chiffres et encore des chiffres.
Alors, il y a depuis 1896, il y a une grosse augmentation, puisque au JO d'été, il y avait 43 épreuves dans 10 sports différents. Et en 2020, on est à 300 épreuves dans 49 sports.
C'est une belle augmentation.
C'est plus, beaucoup. J'ai pas fait le calcul, mais je vous laisse le faire chez vous.
C'est un gros pourcentage.
Sur Instagram. Un pins à gagner. JO d'hiver, les JO que je n'aime pas parce qu'il y a de la neige et que ça me fait peur. 16 épreuves. Mon genou a encore mal. 16 épreuves dans 9 sports en 1924 et plus de 100 épreuves dans 15 sports en 2018.
Et alors, peut-être juste très rapidement, quand même, comment est-ce qu'on. Est-ce que n'importe quel sport peut intégrer les JO? Parce que.
Le twerk, par exemple.
Exactement. Bah, franchement, on a des trucs, on n'est pas si loin. Non, mais parce qu'en vrai, donc, c'est le CIO qui va décider des sports à intégrer. Et il y a un certain nombre, quand même, de critères pour le décider. Je vous regarde, je vois que personne n'a envie
de décider. Si, allons-y sur les critères. Déjà, c'est ce que disait Julie. En fait, globalement, c'est le CIO qui décide, hein, premièrement.
C'est qui décide?
Ça, c'est le premier critère.
C'est le CIO.
Effectivement, donc, il faut que ce sport soit administré, c'est-à-dire géré dans un pays, dans les pays, par des fédérations qui respectent la charte olympique. Hein, ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, ouais. Mais l'égalité oui. Homme-femme, les questions de non-discrimination, il y a même le développement durable, etc., qui ont été rajoutés. Donc, voilà, en gros, un truc de bobo bien pensant, hein, on peut aller.
On peut rien dire, façon.
D'islamo-gauchiste wokiste.
Ouais, c'est pas trop des islamo-gauchistes aussi.
Mais... Ouais,
non, mais voilà, donc respecter en gros ces chartes de neutralité politique et de, on va dire, d'idées progressistes, quoi, grosso modo. Ça doit être pratiqué dans un certain nombre de pays et de continents. Donc, c'est des sports qui doivent être dans minimum 3 continents et 35 pays pour les catégories féminines, 50 pour les catégories masculines.
Oui, oui.
C'est ce qui permet, par exemple, qu'il n'y ait pas la pelote basque qui a été un temps, je crois, au JO.
Et pareil pour le Quidditch qu'on ne verra jamais, j'espère. Tu vois, parce que je les vois à Vincennes,
mais ça, c'est
avec
pas...
des balais en
non, mais c'est pas vrai.
Bien sûr. Mais
non, il y a des gens qui jouent
au Quidditch. Bien sûr.
Mais comment ils font? Il n'y a pas d'attrape de trucs qui volent tout seul.
Je vous invite à écouter l'épisode spécial Noël sur le Quidditch, mais je l'ai vu en vrai. Et je n'ai pas participé à l'épisode parce que j'aurais été mauvais, je pense.
En l'occurrence,
c'est un peu drôle. Pardon.
Ouais, mais le pire, c'est que le Quidditch pourrait être un jour aux JO parce que je pense qu'il est fait dans plus de 35 pays. Par exemple.
Non, mais c'est pas
contrairement
possible.
À la pelote basque ou à des sports comme ça qui sont faits. C'est comme pour ça, par exemple, le baseball, à part, je crois, au dernier JO, a quasiment jamais été aux JO parce qu'il n'y a pas assez de sports qui le font.
Un des pays.
Deux pays, ouais.
Un des critères, c'est quand même l'image du sport. Donc, on peut espérer que le Quidditch, tu vois, il passe pas le cap de ce truc-là.
Le Quidditch est un sport mixte. Et ça, on peut le saluer et voilà. Enfin bref,
c'est un peu d'impact environnemental aussi, je pense.
Et ben exactement, tout à fait.
Il faut juste un balai, quoi.
Non mais
je vous laisse voir l'état des pelouses avant scène devant le château. Mais
Non mais peut-être parce que c'est un peu drôle, Thomas, nous donner genre quelques sports qui ont disparu.
Et ben à mon grand dame pour le coup, le tir au pigeon parce qu'il y en a. Mais pourquoi? Mais le tchonglet, ces animaux, ils sont horribles.
Un baltrap avec.
Donc le tir au pigeon, c'est fini parce qu'il y avait plus de 300 oiseaux tués. On appelle pas ça des oiseaux. Moi, les petits merles, les moineaux, pourquoi pas?
Bravo, Lan.
Mais voilà. Le rat volant.
Qu'est-ce que c'est que votre haine pour les pigeons là? J'adore cette haine.
C'est
pas vrai.
Et je suis sûr que les pigeons qu'on mange, c'est pas ce que
tu vois.
Je t'ai
déjà vu tirer sur des pigeons, Johan.
Tirer dessus.
Ça a disparu. La nage sous l'eau.
La nage sous l'eau.
Alors ça, c'est con.
Mais moi, je comprends pas. C'est quoi la nage sous l'eau?
Bah, tu sais, quand tu es dans la piscine.
C'est de l'apnée, quoi.
En vacances, c'est que tu dis on y va vite, le plus vite possible. Combien d'allers-retours?
Mais ça, je comprends pas pourquoi on a arrêté ça.
Ça n'intéressait personne.
Voilà. Alors, je pense qu'aujourd'hui, pour des enjeux économiques, de toute façon, à filmer. Oh, quoi. J'ai dit de la merde, il y a des caméras sur
le. Non, mais tu le disais, il y a le jeu de paume et la pelote basque. Ça a été seulement en 1900 parce qu'il n'y avait que la France et l'Espagne.
Le tir à la corde et le grimper de corde, qu'on voit aussi pareil dans les forces basques. Le croquet. Est-ce que
le croquet, c'est le truc d'Alice au Pays des Merveilles.
J'adore. Moi, c'est le jeu de mon. Ça, c'était mon autre anecdote. C'est
On y a joué une fois à la Guittière.
C'était le jeu de mon grand-père. Mon grand-père a un jeu de croquet, donc j'ai appris ça gamin. C'est vraiment un gros jeu d'Aristo, globalement. Il n'y a qu'en France où on en faisait. Et effectivement, il y a eu au JO 1900 à Paris, il y avait du croquet. Ouais. Du coup, la France a gagné toutes les médailles.
C'est génial.
Parce que c'était les seuls à jouer. Il y avait un seul spectateur.
Ils se sont dit,
Ok, c'est un Français qui a inventé les JO. Peut-être que le croquet, on n'est pas obligé, tu vois.
Sachant que c'était quand même le premier sport olympique ouvert aux femmes. Donc
oui, c'est vrai, t'as raison. En plus, c'est
quand même le polo va disparaître aussi, et ce qui n'est pas dommage, et on pourrait faire disparaître le polo qui est aussi le t-shirt qui n'est plus du
tout. Tu es dur.
Comment Greg va s'habiller sinon?
Oui, c'est bien vrai. Sans polo, le polo. Et non, donc il y a des sports qui ont disparu, mais peut-être aussi qu'on peut parler des sports qui sont apparus récemment, parce qu'il y a toujours un peu une lutte pour. Et notamment.
Ah bah, ça dit quelque chose d'ailleurs.
Il y a notre communauté déjà, à tous ici, le surf. Voilà.
Est-ce que vous ne savez peut-être pas, à Fréquence Moderne, on est des surfeurs semi-professionnels.
Amateurs, on est prêts pour les JO. C'est bon.
Non, et donc au JO de Tokyo, ils ont ajouté l'escalade, le surf, le skateboard et le baseball.
Et le karaté.
Et le karaté, pardon, mais qui va redisparaître. Karaté, baseball vont redisparaître à Paris. Et ils vont rajouter, par contre, le breakdance. Et là, je me dis que j'ai peut-être une petite chance.
Oui.
Non, ils n'ont pas dit la danse des boys bands, Sarah. Ils ont dit le breakdance.
Dommage.
Mais ça, pareil, c'est intéressant. Ça dit quelque chose. On va en parler tout à l'heure. Mais
merci TikTok, en vrai. Enfin, sur toutes ces choses-là.
Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est toute la dimension business, on va en parler, mais qui n'apparaît vraiment que tardivement dans les années 1980. C'est qu'aujourd'hui, un des critères déterminants des sports, c'est surtout, en gros, qu'est-ce qui passe bien à la télé? Qu'est-ce qui est impressionnant? Qu'est-ce qui va retenir du téléspectateur? Parce que qu'est-ce qui va générer de la moula? Et donc, le surf, le skateboard,
alors
le breakdance.
Alors que la nage sur l'eau. La nage sur l'eau, ça a été impressionnant.
C'est des sports qui parlent à des jeunes et qui sont impressionnants.
C'est là où toi, t'es un peu vieux quand Thomas est jeune. C'est que toi, tu dis c'est des sports qui passent bien à la télé, alors que Thomas a dit c'est des sports qui passent sur TikTok. Oui. Et breakdance, skate et tout.
Sur le TikTok.
C'est sur les réseaux sociaux. On
non, mais quand je disais la télé, je sais que je suis vieux, mais quand je disais la télé, c'est alors, sauf erreur de ma part, je crois pas que TikTok ait encore les droits de diffusion des JO. Je
veux dire,
tu vois parfois des gens, en l'occurrence des jeunes, pas mal dans la rue, qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Puis ils dansent et tout, mais tu sais, devant un endroit improbable, tu vois, genre devant le Franprix, tu dis, mais pourquoi? Et en fait, il y a plein de chorés, enfin, je suis pas expert non plus, mais je sais que ça danse pas mal et que voilà, je pense que le break est à.
On salue tous les jeunes qui nous écoutent. C'est bien, les jeunes, ce que vous faites, continuez.
Vous nous créez un nouveau monde et ça, on est fiers. Donc, moi, j'ai lu la charte olympique et dans la charte olympique, il est écrit que aucun type.
Tu l'as vraiment lu?
Non. Aucun type de manifestation, de propagande politique, religieuse ou raciale n'est permis au stade olympique, au terrain ou aux autres lieux olympiques. Les JO sont donc présentés comme apolitiques. Pourtant, Et pourtant...
Non, bah du coup, logique, en 1936, à qui c'est qu'on donne les JO ?
Et oui,
allez,
ouais.
Devinez,
on a
puisque
dit.
C'est apolitique. Et ben... Allez, salut Adolphe, Adolfito.
Mais oui, mais parce que justement, on montre que même si t'es très méchant, t'as quand même le droit d'accueillir les JO.
Et ben, et ça, c'est super. Et ça, c'est vraiment super parce que c'est vrai que c'est pas du tout un moment où tous les yeux de la planète sont rivés sur toi. C'est pas du tout un moment où tu peux faire passer de la propagande. C'est pas du tout un moment donc, de ce qu'on appelle le soft power. L'idée donc d'étendre son influence justement par des moyens culturels notamment. Bref, et en fait, en plus, Hitler va largement se servir des JO pour en fait, essayer de justifier de matière soi-disant scientifique la puissance de la race aryenne. Donc l'idée que les Aryens seraient évidemment la race supérieure puisqu'ils gagnent toutes les médailles. Et puis ça va être aussi un moyen donc, de très grandes manifestations du pouvoir d'Hitler et donc d'adhésion de la population à son pouvoir. Donc, ce qui est très problématique globalement.
Il va se passer quelque chose d'assez incroyable d'ailleurs pendant ces JO-là, c'est Jesse Owens qui est un athlète noir américain qui va ravir 4 médailles sous les yeux d'Hitler. Mmh. Et
4 médailles d'or, ouais.
4 médailles d'or. 4
et je crois que c'est à Lazaroff.
Au sprint et au saut en longueur. Et enfin, c'est vrai que Hitler, ça la fout un petit peu mal le corps, par rapport à ce
qu'il avait
envie de prouver. Quoi.
C'est QFD à peu près.
Mais ouais, ce qui est, enfin, en plus, ce qui renforce encore plus on va dire, la propagande nazie, c'est que c'est parmi les premiers JO qui sont filmés massivement.
Ouais.
Les années 30, c'est aussi l'essor du cinéma, notamment. Alors, les gens n'ont pas encore la télé chez eux, mais tu vas au cinéma notamment pour voir les infos. Et dans l'Europe entière, on voit ces démonstrations de force dont tu parlais, Marlène, avec notamment les cérémonies d'ouverture commencent à devenir un enjeu politique où tu regardes. En fait, un régime avec des millions de gens qui lèvent le bras, en l'occurrence.
Mais toujours sympathique.
Voilà. Et effectivement, et donc derrière ça, il commence à y avoir, même si on est censé être sur du sport complètement amateur, en amont des JO de 36, le régime nazi, en fait, développe énormément les infrastructures pour surperformer. D'ailleurs, il y a des grosses suspicions de dopage, puisqu'à l'époque, les amphétamines, l'armée, dans le sport, etc., on utilisait beaucoup, mais pour surperformer, parce qu'il y a cette idée de prouver, soi-disant, la supériorité de la race aryenne. Donc, c'est pour ça que ce que tu disais, Thomas, les 4 médailles de Jesse Owens, ça la fout mal. Par ailleurs, Jesse Owens, ce qui est marrant, c'est qu'on a beaucoup dit genre, ah, en fait, c'est un pied de nez à l'Allemagne nazie. Le pauvre, en fait, il est afro-américain.
C'est un pied de nez aux États-Unis aussi.
Globalement, quand t'es afro-américain en 36, tu vis pas très bien non plus. Et en fait, il rentre chez lui. Il a déclaré lui-même, c'est assez marrant. En gros, les gens lui disaient, ah, quand même, vous avez bien fait chier Hitler et tout. Et il a dit, oui, mais en fait, globalement, je suis rentré chez moi. Et en fait, j'ai eu aucun coup de fil du président, rien du tout. Voilà, parce que c'est un afro-américain, donc ségrégation raciale plus. Quoi.
Globalement, on offre quand même une assez jolie vitrine à l'Allemagne nazie. Il va y avoir quand même quelques tentatives, Julie, je ne sais pas si tu veux nous en parler, de boycott, de créer un peu une contre-Olympiade.
Ah, ça, oui, c'est ça, parce qu'en fait, effectivement, comme tu dis, le CIO est très, très bien conscience que laisser les JO à Berlin, c'est servir la cause du Troisième Reich. Ils s'en foutent. Donc à côté, on se dit quand même...
Voir ça les arrange,
ils sont complètement complaisants, en fait.
C'est ça.
Et donc, plusieurs pays demandent le boycott et organisent des jeux alternatifs. C'est ce qu'on a appelé les Olympiades populaires à Barcelone. Donc l'idée, c'est d'essayer aussi d'enrayer la distance entre la classe bourgeoise et ouvrière et de mêler aussi, justement, d'en faire le slogan de la protestation contre l'organisation par l'Allemagne fasciste des Jeux Olympiques. Donc il n'y a pas de commercialisation, pas de militarisation. Les athlètes de tout niveau peuvent concourir. Il y a des femmes et leur participation est sacralisée. Il y a même de la peinture, de la sculpture, de la photo, de la littérature. Bon, c'est des babos, quoi.
C'est une kermesse.
Voilà, c'est une kermesse. Et en fait,
les hippies, en fait, il y avait de la slackline. Il y avait du crachage de feu.
Il y a des bolasses.
Ah, moi, je pensais plutôt qu'il y a de la pêche au canard.
Des bolasses des Sarouels. Bon, ce qui est triste, c'est qu'en fait, il y a la guerre d'Espagne qui pète à ce moment-là. Ouais. La veille, d'ailleurs.
Donc ça n'a jamais eu lieu,
mais l'idée était belle. Voilà, faut le souligner.
Bon, donc, pour l'apolitisme, on repasse. Et d'ailleurs, tout le long de leur histoire, les JO vont finalement être aussi un lieu de revendication. Et on peut commencer, on peut donner quelques exemples en commençant par les femmes.
Oui, cette petite minorité qui n'a pas le droit en fait d'aller aux JO. Donc ça, c'est un truc que Coubertin a bien repris des Grecs anciens.
Oui, voilà. Mais c'est la tradition, Johan. Tu sais, c'est tout.
Non, mais attends. Rien. Citation aux JO, leur rôle devrait être de couronner les vainqueurs.
Voilà, c'est ça. Donc
merci, Pierre.
C'est ce grand Pierre de Coubertin qu'on célèbre et qu'on embrasse.
En hommage à la tradition athénienne, s'il vous plaît.
Effectivement. Alors. je ne vais pas du tout défendre Pierre de Coubertin, mais il n'est pas plus misogyne que le reste de sa classe sociale de l'époque, hein, enfin, d'ailleurs que le reste de la société.
Tout le monde, je pense, pour le coup, oui.
Non, mais que tout le monde, mais particulièrement, en fait, dans justement cette aristocratie qui fait du sport un moyen d'élever les élites, c'est aussi, on le disait, des valeurs virilistes, en fait. Le sport, ouais, c'est une manière de se construire comme homme, et comme homme guerrier, compétitif, dans le, justement la mondialisation, etc. Donc, les
femmes,
comme
tu disais... homme cis.
Oui, comme homme cis, ça n'existait pas trop comme expression à l'époque, mais...
Si, si, Pierre de Coubertin, parle souvent.
Non, mais du coup, les femmes se rebelle un peu, et justement la sportive militante Alice Milia qui va créer des jeux féminins en 1926, justement parce que les épreuves d'athlétisme reines comme la course et le saut dans les années 20 sont encore interdites aux femmes. Et voilà, et en fait en 28 à Amsterdam ça va payer puisqu'il y a une véritable entrée des sportives dans les jeux, mais il y a encore des inégalités de traitement, des humiliations. Donc Alice Milia, elle revient, elle organise encore des nouveaux Jeux Olympiques féminins à Prague en 32, et à partir de là ça avance un petit peu, mais voilà, il a fallu lutter un petit peu pour intégrer les femmes au forceps dans les JO, et il n'y a toujours pas eu de présidente d'ailleurs
du CIO.
Et c'est pas pour rien que ça arrive à cette époque-là, dans les années 20-30, la féminisation des JO et du sport. C'est parce que après la Première Guerre mondiale, où grosso modo tous les mecs étant partis en front, c'est les femmes qui ont fait tourner la machine économique à l'usine, etc. Et de la même manière qu'il y a eu ce qu'on appelait le mouvement des suffragettes, donc un gros mouvement féministe qui a demandé le droit de vote des femmes, c'est une grande époque, beaucoup plus en fait qu'après, d'essor du sport féminin. Et dans les années 20, par exemple, il y a des clubs de foot féminins partout qui explosent, le sport féminin explose. Après, on va leur mettre un bon coup sur la tronche. Ça va reculer, mais c'est grâce à cet essor-là du féminisme post-Première Guerre mondiale, où elles ont prouvé qu'elles avaient une place économique importante, qu'on va concéder des droits aux femmes, et notamment le fait qu'il y ait des femmes athlètes.
Oui, malheureusement, ça tarde quand même à ce qu'on soit égal entre hommes et femmes. Il y a encore des, donc là on est hors Jeux Olympiques, mais j'ai pris cet exemple là parce que ça m'avait frappé quand je l'ai lu il y a peu de temps. Je sais qu'en Formule 1 on a arrêté il y a pas longtemps de faire venir les nanas moitié à poil avec les pancartes devant les bagnoles. Donc ça date d'il y a très peu. Quand tu regardes, moi je suis grand fan de MMA, et à chaque milieu de round t'as toujours des personnes qui se baladent en slip, et je repensais à
et ces personnes sont de sexe féminin,
des femmes féminin en l'occurrence, parce que elles sont
très habillées, j'imagine.
Elles sont très habillées. Après, il y a aussi des femmes qui combattent. Mais bref, sur 2016, je me rappelle moi de Estelle Mosley. C'est qui Estelle Mosley pour vous?
Alors là, pour le coup, personne.
C'est des céréales, non, avec du raisin et des flocons d'avoine.
Ceux qui connaissent un peu la boxe, tout le monde te dira. Ah, c'est la compagne de Tony Yoka.
Oui, oui.
Mais avant d'être la compagne de Tony Yoka, elle est médaillée d'or. Et elle est médaillée d'or avant lui. Ouais. Ils ont gagné la même année.
Ouais, donc c'est ça.
Et ce qui est un peu dommage là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, on parle de Tony Yoka parce que lui, il est passé pro. Il s'est fait éclater d'ailleurs au dernier combat.
Lui non plus, je ne le connais pas, moi.
Mais voilà, on va parler de Tony Yoka, lui, qui est maintenant boxeur professionnel. Estelle Mosley, ce qu'on se souvient, c'est que c'était la compagne de Tony Yoka. Si on est un peu people, on sait qu'ils ont divorcé en 2021, donc il y a un an.
Et tu voilà, me brises le cœur.
On parle.
Ils ont eu un an.
Ils ont eu un enfant.
Je sais pas.
Oh. Je me suis pas assez renseigné.
En tout cas,
moi je suis investi maintenant.
Attendez, Maître Yoda a eu un enfant avec un paquet de muesli. Je ne comprends plus rien.
Mon Dieu. Et quand je disais qu'il était vieux. Donc les JO vont être un terrain de revendication donc pour les femmes, mais également contre le racisme. Et là, on a bien sûr tous en tête les JO de Mexico en 68 et le point levé de Tommy Smith et John Carlos. Ouais. On vous conseille un excellent épisode de PO là-dessus, mais peut-être qu'on peut dire très rapidement deux mots parce que c'est très symbolique.
Oui, c'est ça,
quand
parce
même.
Que tu dis tous en tête, j'espère, mais je ne sais pas parce que c'est quand même un peu vieux. Où effectivement, en 68...
T'étais là, toi ?
Ben, moi, j'y étais pas. Mais Younes y était, je crois.
Je te confirme.
Non, effectivement, 68, année très explosive un peu partout. Année notamment de naissance de ce qu'on appelait le Black Power aux États-Unis, qui est en gros l'expression qui regroupe les mouvements assez radicaux suite à la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. On est 3 ans après l'assassinat de Malcolm X, juste après l'assassinat de Martin Luther King. Et donc, en gros, une partie de la communauté afro-américaine se radicalise en développant une forme d'autodéfense, d'auto-organisation, etc. Parce qu'ils se rendent compte que les inégalités entre les blancs et les noirs perdurent. Et donc, ces deux vainqueurs, effectivement, que sont Tommy Smith et John Carlos, je crois qu'ils sont premier et deuxième, du 200 mètres. Et donc, effectivement, ils vont sur ce podium et ils mettent un gant noir chacun, ils lèvent le poing, qui est le symbole du Black Power, et ils n'ont pas de chaussures. Et en fait, pour avoir fait ce signe-là, grande offense politique au CIO, ils vont être exclus à vie. Moi, je croyais que c'était juste des JO, mais ils sont exclus à vie de tout sport olympique parce qu'ils ont défendu Ils ont défendu l'égalité des Blancs et des Noirs. C'est
et qu'on parle pas de politique aux Jeux Olympiques.
Bah, ils vont même modifier la charte olympique pour interdire ensuite toute manifestation politique, ethno-raciale ou religieuse, alors qu'ils ont pas fait grand-chose. Enfin, ils ont juste levé un point, mais c'était trop grande offense.
Déjà trop. Je suppose que ça a bien changé, parce que de mémoire, parce que ça m'avait un petit peu perturbé, c'est en 2016 que le Brésil gagne au foot les Jeux Olympiques, parce que Neymar gagne le truc et se balade avec le bandeau I love Jesus sur le foot.
Je sais plus.
Ah bah c'est possible,
en tout cas, quand le Brésil gagne, tu vois, donc comme quoi il y a des choses qui sont.
Oui, il y a des trucs qui passent et d'autres qui passent pas, quoi. Mais,
Donc, en tout cas, comme on peut le voir, il va quand même y avoir un certain nombre de revendications pendant les JO. Je ne sais pas si vous voulez en donner d'autres, ou alors peut-être on peut passer aux JO et guerre froide, parce que ça a été aussi un lieu d'affrontement des deux blocs pendant très longtemps.
Ouais. Moi, je veux bien juste en dire un dernier avant, si j'ai le droit, c'est que j'ai beaucoup parlé, mais c'est Munich 72, quand même, juste rappeler ce qui est plus qu'une anecdote.
On en parle aussi dans un EPO.
Et bien, renvoyons à votre épisode.
Peut-être dans
Nos
Heures de Perdu, parce que très bon film de Spielberg aussi.
Ouais, un peu dur.
Sur effectivement cette
C'est dur d'en rire, disons, pardon.
Donc, en fait, il y a un commando palestinien qui s'appelle Septembre Noir. On est en plein conflit israélo-palestinien très dur et prennent en otage une partie de l'équipe israélienne. Ils prennent 11 athlètes israéliens en otage. Uniquement.
Ils en prennent plus, mais il y en a 11 qui sont tués au final.
Ouais, c'est qu'il y en aura 11 de tués, mais en fait, au départ, cette prise d'otage, elle est pour demander la libération d'otages politiques pour le coup palestinien et là, pas 11 ou une dizaine, mais 234.
Oui, et puis aussi pour avoir une tribune médiatique, parce que, rappelons-le, les JO sont quand même l'événement le plus regardé à la télévision, donc ça permet de médiatiser largement la cause palestinienne.
Et ce qui est assez fou, c'est que ce conflit israélo-palestinien qui met tout le monde un petit peu mal à l'aise à l'époque, et bizarrement ça n'a pas trop changé, évidemment les gens vont dénoncer ce qui est considéré comme un acte terroriste quand même, une prise d'otage qui va finir par la mort de ces de 11 otages, notamment parce que je crois que les interventions des forces de police vont clairement merder et qu'en fait du coup
ils ont déjà exécuté un ou deux je crois au moment où ils arrivent dans l'appartement et après, ensuite la plupart vont être tués au moment où il y a effectivement là où il y a l'avion qui doit décoller etc.
Mais ce qui est étonnant sur le positionnement du CIO et des Jeux Olympiques, c'est que le président du CIO de l'époque déclare non pas show must go on mais the game must go on, et donc en fait à la fois c'est un immense événement politique, c'est quand même assez incroyable,
fou.
Et en fait on fait comme si c'était rien passé, il n'y a pas de recueillement particulier, on arrête je crois à peine 24 heures
c'est
et les
horrible.
Épreuves reprennent et les JO continuent comme s'il n'y avait rien.
En fait il y a cette idée que le temps olympique c'est pas le temps des hommes et que c'est complètement en dehors de tout ça, que c'est apolitique etc, mais c'est vrai que là ils sont quand même allés très très loin quoi. Pas aucun moment de recueillement, rien du tout, c'est assez incroyable effectivement . Et il y a aussi eu, puisqu'on termine sur la politique et comment on a pu politiser les JO, quand même en 76 à Montréal, le boycott d'une vingtaine de pays africains, parce qu'il y a l'Afrique du Sud qui est invitée aux JO et qui est un pays qui implémente l'apartheid chez eux. Donc il y a le CIO qui fait bien en sorte que ça fonctionne pas trop quand même. Mais ça fonctionne, ça fonctionne et l'Afrique du Sud est exclue. Ça aussi,
exactement.
C'était un moment marquant.
En tout cas, donc on a dit JO, terrain d'affrontement politique et idéologique également entre les deux blocs au moment de la guerre froide. Alors là, je vous propose juste de donner rapidement un ou deux exemples parce qu'il y a trois excellents épisodes de PO en compagnie de Johan. On vous raconte différentes choses, notamment, je crois, le miracle sur glace, ce match de basket aussi entre URSS et États-Unis où on rajoute des secondes à l'URSS à la fin. Bref, est-ce que vous voulez me donner un ou deux exemples de cet affrontement sur le terrain ?
Eh bien, déjà sur un match de water-polo.
Ouais.
Un match de water-polo qui a lieu en 56 entre la Hongrie et l'URSS à Melbourne. La Hongrie est un état satellite de l'URSS. Et le 23 octobre 1956, il y a une manifestation d'étudiants qui va partir totalement en sucette puisque la police va tirer sur les manifestants et ça va devenir une révolution dans tout le pays. Il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place suite à cette révolution et le 4 novembre, il y a l'armée soviétique qui envahit le pays et du coup, la révolution, elle est écrasée.
Au même moment.
L'équipe hongroise, ils vont pour faire les Jeux Olympiques à
Melbourne.
Tranquillement.
Je pense qu'ils sont sans stress.
Ils doivent être hyper sereins et je pense qu'ils ne sont pas du tout révoltés à l'idée de gagner. Elles dressent le drapeau. Alors l'équipe, au moment de mettre le drapeau, au lieu de mettre le drapeau communiste, ils mettent le drapeau de la Hongrie libre.
Allez.
Donc ça fait un vrai affront. Et il y a une demi-finale de ce match de water-polo avec un enjeu fort puisque la demi-finale, elle va opposer la Russie à la Hongrie. Et il y a, enfin, c'est un match qui va être assez violent. Donc, il faut savoir que le water polo, c'est dans l'eau. Donc, tu es assez fatigué en nageant. Tu n'es pas obligé de te mettre des coups. Mais il y a un joueur qui s'appelle Valentin Prokopov, désolé pour la prononciation, qui va mettre un énorme coup à Ervin Zador, qui va sortir de la piscine le visage plein de sang. Ce n'est pas un truc qui arrive assez fréquemment. Mais voilà, la foule est totalement déchaînée contre les Russes. À la fin du match, il y a 4-0 pour la Hongrie, ce qui est ce qu'on appelle
une branlée,
une tartine, une déculottée. Et la Hongrie va en finale et gagnera contre la Yougoslavie. Donc c'est quand même une belle histoire pour eux.
Mais en tout cas, effectivement, cette histoire, elle est super chouette. Il y en a d'autres, tu l'as dit, dans les épisodes. Il y a notamment les JO de 80, je détaille pas, mais qui sont à Moscou. Et où il y avait un énorme boycott, notamment piloté par les États-Unis. Donc en fait, on voit bien que ce rêve de trêve politique, etc., notamment pendant la guerre froide, ça marche pas très bien. Et que c'est un peu un prolongement du soft power. Il y a le cinéma, il y a la culture.
Ouais,
et le sport est un terrain d'affrontement idéologique très fort. Donc effectivement, comme tu disais, écoutez, pour ceux que ça intéresse, ces super épisodes de PO qui en parle très bien.
Exactement, parce que donc on le voit, malgré les discours, les JO sont donc traversés par ces questions politiques et de société. Et d'ailleurs, à partir des années 80, ils vont prendre, comme toute la planète, le virage de l'économie mondialisée.
Oui.
Oui.
Et de l'économie néolibérale.
Ah bon. Oh.
Et voilà. Et donc, ces fameux JO amateurs, voilà, la beauté du sport, l'importance est de participer, le fair play, tout ça. Oui, d'accord, mais ça serait quand même bien qu'il y ait des sponsors qui donnent beaucoup de moula. Donc, c'est le début, voilà, du sponsoring, du merchandising. Donc, c'est en fait les JO avec lesquels on a grandi. Hein. Enfin, moi, j'en ai pas connu d'autres, mais vous avez les affiches Coca partout, les pubs. Et en fait, où là, on va vraiment, ça devient finalement une marchandise hyper recherchée. Un peu comme avec le foot aujourd'hui, où on négocie notamment les droits télé. C'est ça qui coûte très cher, la retransmission.
Et, oui.
Et donc, ça va avec tout ce qu'on disait sur la recherche de la performance, etc. Puisque le but, c'est de capter le téléspectateur, de le garder. Et tout ça, ça
pour
va se faire. Voilà, pour vendre de la pub. Et tout ça, ça va se faire grâce à un petit monsieur qui va être directeur du CIO à partir de 1980 et qui s'appelle Samaranch.
Voilà. Ouais, Juan Antonio Samaranch, donc un Italien. Ouais. Alors lui, c'est vraiment, franchement, moi j'adore, en fait, je déteste, mais je suis passionné par. Si, il est espagnol, catalan. Et en fait,
mais t'as dit italien, non?
J'ai c'est dit italien.
Il a un petit passé franquiste.
Ouais, je confonds les pays latins. Pardon. Non, effectivement, il a plus qu'un petit passé franquiste. Ouais. C'est un franquiste convaincu.
Il était en gouvernement.
Qui a été pas au gouvernement, mais en fait, il était président de la fédération de, je crois, olympique espagnole.
Il était pas loin, quoi.
Proche du pouvoir. Il était ambassadeur d'Espagne en Russie sous Franco, etc.
Et puis, c'était le parrain du fils de Franco.
Voilà. Ah ouais, blague.
C'est ça. Donc,
c'est une blague.
Grosso modo,
tu sais.
Il y a plein d'histoires assez folles sur Samaranch. Il y a un super épisode de Monsieur X là-dessus. Mais donc, franquiste, proche du KGB aussi, ce qui paraît absurde. Donc, KGB, je rappelle, c'est les services secrets soviétiques à l'époque, mais c'est possible de faire ces deux en même temps. Samaranch, en gros, c'est le businessman, effectivement, qui va introduire cette révolution libérale dont parlait Marlène. Et il faut quand même, pour moi, c'est important d'insister là-dessus. Nous, on est une génération, on est très jeune, hein, on a la trentaine là, autour de cette table. En fait, ça nous paraît, on a connu que ça, mais effectivement, c'est une vraie révolution et c'est à l'encontre. Il a dû, Samaranch, modifier toutes les chartes olympiques écrites par Coubertin.
Parce que ça l'arrange.
Pour, mais tu rigoles, c'était le. C'était le
Allez, Olivier, elle était pour toi. J'espère que tu nous écoutes.
En plus, c'est un vrai slogan, notamment des gens qui dénonçaient. C'était,
oui,
il l'appelait Juan Antonio Samaranch. Parce qu'en gros, il a fait.
Les athlètes, il l'appelait comme ça.
C'est ça, un nombre de magouilles incalculable. Donc, on va pas vous résumer tout le personnage, mais il reste 21 ans à la tête du CIO et effectivement, il fait rentrer les grands sponsors et il a la tête du CIO au moment d'un sacré nombre de scandales. Un exemple, les JO d'Atlanta en 1996, qui sont censés sonner.
Les premiers que j'ai regardés, clairement.
Voilà. C'est le centenaire des JO modernes, donc normalement tout le monde se dit ça va être à Athènes, c'est normal, c'est des Jeux grecs. Et ben non, c'est à Atlanta. Pourquoi Atlanta?
Parce que c'est la ville de Coca-Cola.
Voilà, c'est le siège de Coca-Cola. Et donc il va y avoir la même chose en 88 avec Séoul, qui est une ville où Adidas est très fortement implantée. Et en fait, Adidas et Coca sont vraiment deux énormes boîtes qui pratiquement copilotent, c'est à peine exagéré de dire ça, le CIO, tellement ils ont une influence économique.
Ouais, ils ont de la thune.
Il y aura un scandale à Salt Lake City aussi en 2008.
Je sais plus
quelle année c'est, excusez-moi, mais où pareil, en fait, il y a clairement de la corruption sur l'attribution des JO à Salt Lake City. Sochi en Russie en 2014, pareil,
tout
alors que Poutine envahit la Crimée. Bref, en fait, les mêmes scandales qu'on a dans le foot avec la FIFA, dans ce qui était censé être le contre-modèle de la FIFA, c'est-à-dire un truc amateur, apparaît grâce à notre ami Samaranch.
Et oui, et encore aujourd'hui, les JO vont être traversés par de nombreuses controverses sur les questions démocratiques, climatiques et sociales.
Oh non.
Et si. Ah, je suis désolée, Thomas.
Et oui, oui. Et sur avait, la... c'est à cause d'eux qu'il y a le naming dans les stades et qu'on a la Ligue 1 Uber Eats et le Mbappé Saint-Germain.
C'est vrai. Et donc, notamment, bah, sur la question démocratique, on a eu un bel exemple en 2008 avec les JO de Pékin.
Ouais, bah voilà. Donc, en 2008, où on attribue les JO à la Chine, ce qui... Voilà, ce qui est, enfin, à Pékin, et donc ce qui va en fait encore causer scandale, parce que il y a toujours cette question dont on a déjà parlé en fait avec les JO de 36.
Pareil, c'est la vitrine.
De cette vitrine que représentent les JO, et donc les JO vont devenir notamment dans les années 2000 un vrai enjeu géopolitique pour les puissances émergentes notamment. Donc pour la Chine, mais en fait on peut parler aussi de la Russie ou du Brésil qui va avoir les JO de Rio en 2016. Donc tous ces pays-là vont vraiment entrer dans la course pour s'affirmer, parce que être hôte des JO, c'est s'affirmer comme puissance sur la scène internationale, et c'est pouvoir aussi afficher sa modernité, sa capacité aussi à contrôler l'événement de manière politique. Il a été bien contrôlé en Chine, il a été bien contrôlé en Russie. Voilà, donc ça pose vraiment des très gros problèmes démocratiques.
Exactement.
Puisque les JO vont être mis en place dans des pays où on ne respecte pas les droits humains, alors que les JO sont censés être une vitrine de tout ce qu'il y a de plus beau. On le sait bien.
Alors que la Fédération internationale de foot respecte parfaitement les droits de l'homme, avec le Qatar notamment.
Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle en plus de la Chine et de la Russie en disant « Ah là là, mon Dieu, régime autoritaire, etc. » Mais en fait, même dans des pays qui se revendiquent comme des États démocratiques, comme le Brésil de Lula à l'époque, je ne parle pas de celui de Bolsonaro, mais en fait, l'installation des JO à Rio va être dramatique humainement. On va aller éjecter des populations entières de favelas, mais de manière militaire et extrêmement violente, pour pouvoir construire les stades, pour pouvoir accueillir les touristes, et tout ça sans aucun respect de ces populations, les plus pauvres en plus.
Et ça se fait à des échelles différentes, mais ça existe à chaque JO en fait. Donc effectivement, c'était sans doute quelque chose de complètement inédit en termes de taille et d'échelle à Rio. Mais tu vois, à chaque JO, tu as la destruction systématique de logements sociaux, par exemple de jardins ouvriers aussi à Londres.
Même à Paris.
À Aubervilliers. À Aubervilliers pour la piscine d'entraînement. Donc c'est même pas une piscine où il y aura les JO, c'est juste pour qu'ils s'entraînent. On te déboîte un jardin ouvrier. Pareil pour les espaces verts. Toujours des déplacements forcés de population aussi qui vont avec. Donc à Paris, on a la destruction d'un foyer de travailleurs à Saint-Ouen pour construire un village olympique. Les travailleurs immigrés, en l'occurrence là, sont toujours pas, enfin sont relogés dans des trucs exigus provisoires. Ils savent pas où
c'est
ils
bizarre,
vont.
C'est bizarre. On détruit jamais des logements du 8e ou de Neuilly-sur-Seine.
Non, tu pour construire des piscines. Non. Ouais.
Peut-être qu'on ne le dit pas.
Ça se trouve, on leur.
Bizarrement, la majorité des infrastructures se trouvent en Seine-Saint-Denis. Et là aussi, il faut aussi comprendre le discours qui se joue derrière. C'est que la ville de Paris a beaucoup misé là-dessus en disant bah oui, mais en fait, c'est des infrastructures qui vont ensuite bénéficier aux populations.
C'est ça, ouais.
Dans le département le plus pauvre de France, là où on a très peu d'infrastructures sportives, etc. Oui, ouais. Sauf que en réalité, déjà, ça coûte extrêmement cher. Donc en plus,
c'est jamais rentable. Hein, les
voilà, c'est jamais rentable et c'est aussi, ouais. C'est aussi
du coup,
financé.
Est-ce qu'il faut que j'achète un appartement à Saint-Denis ? C'est ça la question.
Alors, je crois que oui. La réponse est oui, du coup. Voilà. Et que ça s'accompagne de vrais problèmes sociaux et environnementaux à côté, dont on parle beaucoup moins que ces fameuses piscines qui bénéficieront aux petits-enfants de Seine-Saint-Denis. Quoi.
Exactement. Et peut-être qu'un jour, on vous fera un épisode croisé avec 20 minutes avant la fin du monde également, pour parler sport, écologie, construction de grosses infrastructures, parce que tout ça, ça pose aussi pas mal de problèmes. Je crois qu'on arrive à la fin de notre épisode, sauf si vous avez quelque chose de très important à ajouter.
Et non, puis, on a fait le tour.
On a fait le tour. Bon, alors peut-être pour finir, quand même, parce que bon, c'est un épisode croisé EPO Culture 2000, on est obligé de vous faire un petit anti-doping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping. Donc, il fallait faire la petite chose.
Mens sana in corpore sano. Pour le corps, on a vu. Mais qu'en est-il de l'esprit, de l'art et autres prouesses créatives ? En effet, la fin du 19e siècle marque l'avènement du réalisme et de l'impressionnisme. Les artistes délaissent les thèmes religieux, abondants jusque-là, et croquent des scènes de vie, de l'homme et de ses manies, comme les loisirs sportifs par exemple. Alors quand Pierre de Coubertin réinstaure les Jeux Olympiques, c'est pour lui une évidence de combiner le sport et l'art. Dès lors, il convoque en 1906 une rencontre avec les membres du comité et des représentants d'organisations artistiques afin de structurer ces nouvelles compétitions. Il y aura donc 5 catégories, chacune divisée en plusieurs sous-parties à partir de 1908, mais on y reviendra en détail plus tard. La sculpture, la musique, la peinture, la littérature et l'architecture composeront ce qu'on appellera le pentathlon des muses. Pour concourir, les artistes doivent envoyer leurs œuvres au comité olympique de leur pays pour une première sélection, avant de les adresser au comité international. Toutes ces œuvres s'inspireront du sport et seront réunies dans une grande exposition présentée au moment des Jeux.
Moi, j'ai envoyé tous mes dessins.
Le jury désigne ensuite des lauréats qui reçoivent les mêmes médailles que les sportifs. Ils espèrent lancer leur projet dès 1908, mais c'est un peu le bazar. L'Italie, pays organisateur, abandonne la tenue des Jeux pour cause de problèmes financiers. C'est donc en hâte qu'on reporte les Jeux à Londres, mais avec une seule année de préparation, il semble ambitieux d'y intégrer de nouvelles disciplines. Charge de revanche, Pierrot vise maintenant 1912 et doit convaincre les Suédois qui sont pas très chauds. C'est donc un timide départ, mais un départ quand même pour les Jeux artistiques et la trentaine d'artistes dans les starters. 1920, à Bruxelles, l'art n'étant pas la priorité des organisateurs,
bah non, c'est la bière.
Les épreuves se sont déroulées à l'abri des regards et très peu d'informations sont disponibles. On atterrit à Paris en 1924 et ce sont à présent 193 candidats venus de 23 pays qui s'affrontent. Même des artistes soviétiques, en solo, vu que l'URSS considérait les Jeux Olympiques comme un festival bourgeois. Les Jeux Olympiques de 1924 ont encore plus d'ampleur à Amsterdam. Entre 1000 et 1150 tableaux et sculptures sont exposés. Les artistes ont la permission de vendre leurs œuvres à la fin de l'exposition, ce qui crée une polémique en raison de l'amateurisme prôné par le CIO. En 1932, on note une moindre participation autant dans les domaines sportifs qu'artistiques, et ce sera le cas jusqu'en 1949, où un débat qui monte depuis plusieurs années au sein du comité, la majorité des artistes participants sont professionnels et cela semble bien injuste au vu des valeurs des Jeux. On propose de remplacer la compétition par une exposition, sans prix ni médaille. Mais dorénavant, dans la charte olympique, il est stipulé que l'hôte doit inclure un programme d'événements culturels représentant les valeurs des Jeux. Au total, 150 médailles ont été décernées durant ce laps de temps. On retrouve tout en haut du classement les Allemands qui n'ont pas du
tout... C'est toujours eux qui gagnent.
Pas du tout abusé pendant les Jeux de 36. Hein?
Voilà.
Ça va, le jury nazi, là. Oh. Viennent ensuite l'Italie, les États-Unis et la France reste au pied du podium avec 4 médailles d'or, 4 d'argent et 5 de bronze. Revenons en détail sur les différentes catégories. Pour la sculpture, nous avons les statues, les médailles et les reliefs. Pour la musique... Nous avons les catégories musique, composition de chant pour soliste.
France Gall a gagné une médaille d'or.
Composition,
merci France.
Ou orchestre.
J'étais pas prête.
Mais c'est pas forcément toujours évident pour le jury d'évaluer les pièces écrites.
Bah non.
En deux occasions, il n'a été donné aucun prix. Dans la catégorie musicale unique de 1924 et dans la catégorie de musique instrumentale de 1936. Peinture, alors là, c'est le YOLO tôt. Ça change à chaque édition, donc sommairement. Les catégories principales sont la peinture, la gravure, les arts graphiques et les arts appliqués. Et pour les plus téméraires, on a des arts graphiques commerciaux, de la gravure slash eau forte, pas pour les amateurs d'eau vive donc, et la catégorie à base d'eau ou d'huile. Pour moi, ça fait des panzani, mais chacun son délire.
Il n'y avait pas graffiti.
Architecture, nous avons projets architecturaux et urbanisme. Même si cette catégorie n'a jamais été clairement définie, s'y mettent un petit peu tout là-dedans. C'est aussi la seule catégorie dont les travaux peuvent avoir été conçus bien avant les Jeux. D'aucuns citeront le stade olympique d'Amsterdam où se tiennent les Jeux de 1928.
C'est vrai.
Mais savez-vous qu'un petit moustachu a fait pareil ? Déjà, un peu de contexte. Début du XXe siècle, l'Allemagne est choisie pour accueillir les Jeux de 1916. Alors on fait des plans et on remplace l'ancien hippodrome de Berlin par un stade de 30 000 places. Alors c'est pas le stade de France, mais ça fait déjà un bon terrain de foot. Les experts ici présents nous le diront. Cependant, un petit événement, bon, pas grand chose, la guerre, bref, met en hiatus notre compétition. Et en 1931, l'Allemagne est de nouveau choisie comme pays hôte. À la base, on prévoyait juste quelques rénovations. Mais en 1933, le fameux moustachu prend le pouvoir et décide de profiter de cette opportunité pour en mettre plein les yeux à tout le monde. Surtout la propagande. La famille d'architectes March, pas vraiment des sympathisants, ne sont pas écartés du projet pour autant. Ils s'inspireront du Colisée de Rome et des constructions de la Grèce antique. L'Olympia Stadium peut désormais accueillir 110 000 personnes. Et surtout, les répétitions des défilés nazis.
Ouais, sympa.
Et c'est aussi dans ce stade que ce drame s'est produit.
Oh Zinedine, pas ça.
Non, pas Zinedine.
Moi, je suis encore traumatisé par ça.
Mais c'est un stade de l'enfer, en fait.
Littérature, avec les catégories littérature, œuvres lyriques, œuvres dramatiques et œuvres épiques. Les œuvres ont une longueur limitée de 20 000 mots et peuvent être rédigées dans n'importe quelle langue, mais doivent être accompagnées d'une traduction et ou d'un résumé en anglais et ou en français.
C'est une disserte.
On peut citer l'écrivaine finlandaise Aale Tigny, médaille d'or d'œuvre lyrique de 1948 avec la renommée de la Grèce, qui est la seule femme championne olympique artistique de l'histoire.
Bravo à elle.
Mais l'une des médailles d'or les plus mythiques est décernée dès 1912 à Georges Aurort et Martin Espark. Ou devrais-je dire Pierre de Coubertin pour son ode au sport, un poème en prose de 9 strophes au texte bilingue français-allemand sur lequel nous allons conclure.
L'enfer.
On dirait les poèmes du métro, tu sais, avant où tu... J'ai hâte d'entendre.
Ô sport, tu es l'audace. Tout le sens de l'effort musculaire se résume en un mot, oser. À quoi bon des muscles ? À quoi bon se sentir agile et fort et cultiver son agilité et sa force, si ce n'est pour oser ? Mais l'audace que tu inspires n'a rien de la témérité qui anime l'aventurier lorsqu'il livre au hasard tout son enjeu. C'est une audace prudente et réfléchie.
On dirait un slogan de Macron.
Oh, c'est pas
grave.
Tu es l'honneur. Les titres que tu confères n'ont point de valeur s'ils ont été acquis autrement que dans l'absolue loyauté et dans le désintéressement parfait.
Il a jamais aussi bien parlé, Michael.
Celui qui est parvenu c'est beau. Par quelques artifices inavouables à tromper ses camarades en subit la honte au fond de lui-même et redoute l'épithète infamante qui sera accolée à son nom si l'on découvre la supercherie dont il a profité.
Oh, sport.
Tu es la joie. À ton appel, la chair est en fête.
Ça dure encore 1h45.
On est à quelle strophe, là?
Abondant et pressé à travers.
Faites-vous des pattes rapides chez vous, là.
L'horizon des pensées devient plus clair et plus limpide. Tu peux même apporter à ceux que le chagrin a frappé une salutaire diversion à leur peine, tandis qu'aux heureux, tu permets de goûter la plénitude du bonheur de vivre.
Et voilà.
Eh bien,
c'est fini le texte. C'était un beau texte. Et ben c'est fini maintenant, j'ai tout lu.
Eh ben merci beaucoup Mickaël. Merci Chloé d'avoir été là et peut-être qu'on peut embrasser nos autres camarades de Culture 2000, oui. Greg, Léa et JB.
On les embrasse très
et
fort.
Et de PO, donc Olivier.
Olivier, Thibaut, Younes. Et je tenais vraiment à vous remercier aussi les camarades de Culture 2000 avec qui que je vois pour de vrai pour la première fois. Vous êtes un peu mes idoles. C'est vrai qu'on s'est vu autour de quelques bières, mais voilà, moi, le dernier livre que j'ai lu, c'était L'Équipe, et du coup, j'ai appris plein de choses avec vous, donc je tenais à vous remercier vraiment.
Mais le remerciement est mutuel, Thomas.
Oui, absolument.
On est une grande équipe.
Moi, j'ai pas encore lu L'Équipe, du coup, c'est parfait.
Mais c'est tous les jours un nouveau livre.
C'est génial.
C'est trop de livres pour moi, du coup.
Vachement plus productif que Zola, ce fainéant. En tout cas, on était trop contents de faire cet épisode croisé.
Oui.
On espère que ça vous a plu. On vous invite à écouter Culture 2000, EPO, mais aussi les autres podcasts de Fréquence Moderne.
20 minutes avant la fin du monde.
Tout à fait.
2 heures de perdu.
Ah oui, pareil que ça existe.
Est-ce
ça
qu'il
aussi.
Faut que je remplace Thibaut? Relire Tintin.
C'était excellent. J'ai cru qu'il était parmi nous.
Mais je me suis moi-même cru être lui.
Et puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Ouais, partout. Mais suivez-nous dans la rue également. Si vous
non, ça c'est flippant.
Et Johan, sur quoi on se quitte en beauté
sur Queen, parce que...
Oui, si vous êtes encore là.
Parce qu'on a gagné la Coupe du Monde.
Les champions.
Et ouais.
And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends.